Karim, yes. Karim, on embête les gens après, pas avant.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer. Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui vulgarise les petits et les grands sujets. Aujourd'hui avec moi j'ai une fine équipe, à commencer par Monica.
Hello.
Juan.
Salut.
Karim.
Wesh.
Et Camille.
Salut.
Alors comment ça va?
Il fait une chaleur de pute.
Ah oui, effectivement. Bah, c'est,
ouais, il fait grave chaud, c'est l'enfer.
C'est joliment dit. Effectivement.
Et toi, Yas, ça va?
Bah écoute, mon deuxième préféré après Camille. Oui. Je commence à faire un classement, je ne dirais pas qui sont les deux derniers, mais...
On a vu les charts.
Un classement se dessine. Alors je sais pas si vous avez vu les petits commentaires qu'on a eu sur les réseaux, sur Facebook, Twitter, iTunes.
Ouh, oui.
On a eu beaucoup de gentillesse, plein de 5 étoiles sur iTunes, et on vous en remercie, on vous encourage d'ailleurs à nous mettre plein de 5 étoiles supplémentaires.
Est-ce que vous pouvez les remettre une deuxième fois?
Bah, ça c'est pas possible, ça marche pas.
Ils peuvent très bien créer un deuxième compte.
Vous pouvez créer 17 comptes iTunes.
Non, sincèrement, c'est vraiment extrêmement gentil, on a eu des commentaires très très sympathiques, et en plus, bah, ça nous fait super plaisir parce que ça permet de faire connaître le podcast, donc c'est super sympa.
Vous êtes trop mignons.
Merci, merci. Voilà.
On a eu notamment Mina qui nous a contacté sur Facebook pour nous partager des photos de Fender qu'elle a pris à Londres en pensant à la chronique faite par Karim sur Léo Fender.
Quelqu'un pense à Karim.
Et ouais.
Merci Minette.
Et on a, aussi eu Fanny qui nous a contacté, qui a écouté notre podcast. Et en fait, il se trouve que Fanny fait également un podcast. Elle était intéressée par le sujet médiéval de Camille. Il se trouve que Fanny a un podcast qui s'appelle Passion médiéviste, qui est très sympathique.
Je me demande de quoi ça parle.
Et effectivement, de l'histoire médiévale. Enfin, c'est un podcast mensuel où elle interviewe de jeunes chercheurs en histoire.
Je crois qu'elle interviewerait des chevaliers, des trucs comme ça. En fait.
Mais elle a essayé, j'imagine. Non, mais niveau population, c'est assez léger.
Non, parce que peut-être qu'elle, elle a vu Sacré Graal.
Je l'ai vu. Et le fait est que j'ai moyennement apprécié. Mais c'est une autre histoire. Oh bah ça casse pas quatre pattes à un canard quoi, enfin
très bien.
Je suis un peu choquée.
On parlera de ça plus tard sur un ring.
Voilà.
Tu seras plus le chef désormais. Tu ne mérites plus ta place.
Et déjà depuis quand c'est toi qui décide? Là n'est pas la question. Donc pour finir sur Passion Médiviste, vous pouvez les retrouver sur SoundCloud. Elle a une page Facebook et un compte Twitter aussi qui est PM Médiviste, où on vous le conseille.
Voilà qui est formidable.
Donc maintenant.
Big up à Fanny.
Alors de bah, déjà big up à Fanny. Merci Karim.
De rien. C'est un plaisir.
Et surtout, alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors, Monica.
Moi, je vais vous parler de surpopulation carcérale.
Sympa.
Une grosse ambiance.
Un sujet léger. Cool.
A priori, je maîtrise un peu mieux le sujet que l'étymologie.
Alors, Juan.
Moi, je vais vous expliquer comment survivre sur un plateau de tournage si un jour vous vous retrouvez sur un plateau de tournage.
On reste sur le thème de la survie. Karim.
Moi, je vais vous parler de samples dans la musique. Et ça va être vachement bien, vous allez voir, on va bien rigoler.
Cool, avec une petite surprise à la fin, si je ne dis pas de bêtises.
Avec un petit quiz interactif de type blind test à la fin pour terminer ce podcast dans la joie et la bonne humeur.
Ah, on a
de
voir ça.
De type interactif, très bien.
Et Camille?
Bah moi, je vais vous parler cuisine. On va parler cannibalisme.
Ah.
Je vais dire, putain, ça a l'air chiant contre.
Comment se faire retirer le cul? C'est parfait, ça.
Nice.
Ah bah,
tu
ok, bah, personne. Personne pense au patron, ça fait plaisir. Donc moi je suis voilà.
De quoi tu vas nous parler, Elias?
Ah bah toi tu seras mon dernier préféré parce que t'es faux cul, voilà. Bah moi j'ai parlé des lois de gestion du temps et des tâches quotidiennes parce qu'il y a un ami proche qui m'a fait penser à ce sujet. Voilà, je vais vous faire une petite vous parler des lois qui permettent de gérer le temps et de mieux gérer ce qu'on
du
a
coup,
à
ce qui est bien, c'est que tu viens de comprendre pourquoi on t'a pas demandé. C'est parce que même quand t'as expliqué ton sujet, personne n'a compris de quoi t'allais parler.
Si, mais ça sera vachement bien, vous êtes jaloux.
C'est un rapport avec la ménopause.
Vous êtes jaloux, voilà tout.
Nous avons scruté la crique des cannibales.
Le cannibalisme est un péché mortel.
Le mode de bouffe le moins cher.
Le cannibalisme.
Eh bien, en effet, on va parler de cannibalisme. Alors, le cannibalisme, c'est un sujet, entre guillemets, à la mode, qu'on retrouve dans pas mal de films, de séries. Je pense que vous avez tous déjà vu un film, une série ou lu un bouquin en rapport avec le cannibalisme.
Oui, Hannibal. Cannibal Holocaust.
Alors, oui. Il y a notamment le personnage Hannibal Lecter. Donc, quel personnage, d'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai écrit Hannibal Lecter, j'ai marqué Lecter comme...
Le mec est érudit comme
exactement,
comme
c'est un intello. Donc, Hannibal Lecter, c'est un personnage à la base qui a été inventé par Thomas Harris. qui apparaît dans son roman Dragon Rouge, qui est sorti en 1981. On a également la série Hannibal, que je vous recommande, qui est vraiment super chelou.
Que j'ai toujours pas vu, il paraît que c'est vraiment cool.
Elle est vraiment bizarre, mais elle est super.
C'est le même mec qui fait American Gods, d'ailleurs, le showrunner, je crois.
D'accord. Bah alors ça, j'aurais pas à dire. Peut-être, absolument. Et le Hannibal est joué par l'excellent Mads Mikkelsen. Je sais pas si vous le connaissez, qui est un super acteur danois.
C'est juste que je le trouve mignon, tu peux le dire.
C'est qui?
C'est un des plus grands acteurs danois, franchement, c'est super.
Je sais pas si t'as vu Rogue One, le dernier film Star Wars, il jouait l'architecte de l'étoile de la mort. Il est aussi dans plein de pubs de meubles.
Oui, absolument. J'ai vu récemment dans une pub de table. Voilà. Oui,
c'est vrai, je l'ai vu dans le métro.
Voilà, on a également Hostel, il y a un bref passage de cannibalisme. On a eu Sweeney Todd, là, un petit côté un peu plus gothique, ouais, Tim Burton, tout ça, avec les tourtes, exactement. Alors, intéressons-nous vraiment au cannibalisme. Alors déjà, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la différence entre cannibalisme et anthropophagie?
Alors, il y en a un où on attend que l'autre soit mort, je crois, non?
Non, pas du tout.
Non.
Est-ce qu'il y en a un où c'est juste l'acte de manger un être humain et l'autre où c'est une habitude, genre c'est ton alimentation principale?
Alors non. Non plus.
J'étais pas loin.
Anthropophagie, c'est juste manger un homme, alors que cannibalisme, c'est manger quelqu'un de la même race que toi.
Exactement. Ah, c'est ça. Anthropophagie ne concerne que les humains.
Encore la linguistique.
Donc anthropophagie, en fait, ça ne concerne que les humains et c'est une forme de cannibalisme. Mais le cannibalisme, ça peut être par exemple des guêpes cannibales ou ça se retrouve beaucoup chez les insectes.
Des
mondes
religieux cannibales.
Bah oui.
Bah, de base, oui.
Voilà.
Des veuves noires cannibales.
Les animaux cannibales se mangent entre eux quand ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent ou quand ils sont en surpopulation. Voilà, par exemple, les fourmis se bouffent entre elles quand il n'y a plus assez de place dans la fourmilière. Voilà.
On ferait pareil, on peut pas
dire. Je ferais la même chose si j'ai 7 enfants et plus assez de place dans la maison. Voilà.
Allez, ce soir, on mange Michel.
T'appellerais ton enfant Michel?
Pourquoi pas?
Mais grave. On est en 2017, les gars.
Le mot cannibalisme, en fait, vient du mot caniba. Et caniba, c'est un mot.
Caniba. Moi, ça me fait penser à un panier en osier direct, mais
un caniba.
Non, en fait, un caniba, ça ne veut rien dire. Un caniba, c'était le nom d'une tribu que Christophe Colomb a rencontré lors de son premier voyage à Saint-Domingue.
M'amène.
Et donc.
Oui,
et donc les canibas, en fait, c'était une tribu qui bouffait les autres populations de l'île. Et donc, c'est de là que vient de l'île Saint-Domingue.
Ah oui, parce que je suis du nord de la France. C'est super bizarre.
Non, ils aimaient. Bah, c'était leur manière de montrer qu'ils dominaient, j'imagine.
Les Hauts-de-France sont décimés.
Mais à ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans la fricadelle?
Ah voilà.
Bah voilà, tu vois, problème réglé.
Ils sont malins.
Alors, il y a différentes formes de cannibalisme. Il y a l'anthropophagie, du coup, qu'on a mentionné. Il y a l'endocannibalisme. Donc, l'endocannibalisme, ça consiste en fait à manger les personnes du même cercle, donc de sa famille ou de sa tribu. C'est souvent un rite funéraire qu'on retrouve, c'est-à-dire que, par exemple, dans certains peuples d'Amérique du Sud, quand vous perdiez votre père ou votre mère, vous deviez, avant de l'ensevelir, lui manger le cœur, le cerveau, les yeux, souvent. Et c'était un rite de passage, en quelque sorte, qui permettait à l'âme d'aller vers l'au-delà et vous de garder une partie du défunt, de garder avec vous.
Je suis pas choquée.
J'imagine.
Pourquoi
pas ?
On a fait l'enterrement de Tata, mais qu'est-ce qu'on a bien mangé, quand même.
Elle avait du cœur. Elle était diabétique.
L'ambiance n'était pas terrible, mais sacré buffet. Hein.
Il y a également l'exocannibalisme. Alors l'exocannibalisme, le concept c'est de manger que les gens qui n'appartiennent pas à sa tribu. Donc souvent l'exocannibalisme est guerrier, c'est-à-dire
J'ai gagné, je te mange le cœur.
C'est exactement ça. Par exemple, les Iroquois et les Hurons, donc les Indiens d'Amérique du Nord, étaient souvent exocannibales. Ils se mangeaient entre eux. Le fait de manger son ennemi, notamment...
Commence pas à rigoler Karim, c'est pas marrant du tout.
Mais c'est vrai que les Hurons étaient lancés comme c'était tout à fait naturel. Mais oui, les Hurons, bien sûr, la tribu du Canada, bien évidemment.
Mais si, c'était ceux qui se faisaient massacrer par les Iroquois.
Oui, bah oui, moi aussi, j'ai vu des croquettes.
Bah oui, la base, danse avec les loups. Et donc, en fait, voilà, l'intérêt de manger ces prises de guerre, c'est d'absorber la force de l'ennemi, en quelque sorte, et également d'humilier l'ennemi et de le réduire à néant, parce qu'on ne laisse plus rien de son corps, sauf les os, éventuellement. Voilà, je pense pas qu'on en fasse grand-chose.
Non, c'est dur à manger.
Voilà.
On pourrait faire des bouillons.
Ça croustille.
On pourrait faire des petits bouillons.
Ah, je suis sûre que ça s'est déjà fait. Il y a également le cannibalisme de survie, qui se pratique depuis fort fort longtemps, en cas de famine.
Dit à la Tom Hanks.
On mange tata. Les quatre cannibalismes de survie, je vais pas tous vous les citer parce que la nuit n'y suffirait pas.
Non, vas-y.
On en a un assez connu qui date de 1816. Vous avez peut-être déjà vu un tableau qui s'appelle Le Radeau de la Méduse.
Absolument,
oui.
Voilà, n'est-ce pas ?
On est culturé, wesh.
En fait, Le Radeau de la Méduse, ce tableau représente une histoire vraie qui s'est produite en 1816, c'est-à-dire qu'il y a eu un terrible naufrage. le naufrage d'une frégate qui s'appelait la Méduse, qui était un bateau qui était rempli d'esclaves et également d'hommes blancs qui faisaient partie pour la plupart de l'équipage. Et en fait, le bateau s'est échoué sur un banc de sable, une bonne partie de l'équipage d'hommes blancs s'est barré et a abandonné quelques hommes blancs et la plupart des esclaves.
Salaud.
Ils se sont construits un petit radeau de fortune, ils se sont entassés à 150 dessus, ils sont partis à la dérive pendant 13 jours, et à la fin, il n'en restait que 15.
Finalement, c'était un peu la concrète, quoi.
Mais c'est une bonne solution, vu que le radeau était surpeuplé, on devrait peut-être proposer ça pour régler la surpopulation carcérale.
Alors,
je place mon sujet tranquille, c'est pas encore à toi, tu te calmes.
Non, c'est vrai qu'on pourra en reparler, mais en tout cas, sur le radeau de la Méduse, on ne pense pas qu'ils se soient entretués pour se bouffer, c'est-à-dire ils ont bouffé les morts. Il faut vous imaginer que c'est un radeau qui était assez enfoncé dans la mer, étant donné qu'on avait 150 personnes dessus. Un radeau qui faisait deux fois la taille d'un matelas king size, donc un tout petit radeau sur lequel ils étaient totalement entassés.
Je suis pauvre, je ne sais pas combien fait un matelas king size, je suis...
Eh bien, deviens riche et tu le sauras.
Demande à ton armoire Camprat.
Et donc en fait le radeau était un petit peu enfoncé dans l'eau, donc les gens en fait avaient de l'eau jusqu'aux genoux, donc ils mouraient à cause de ça parce que
ça pourrit.
Voilà, exactement. Puis 13 jours, autant vous dire que ça pourrit bien comme il faut.
Putain, il y a Michel qui tousse là, dans 2 jours on bouffe, ça va être bon là.
Il est à point là, je le sens.
Et on a eu également un cas de cannibalisme de survie un petit peu plus récent. Je sais pas si vous en rappelez, enfin si vous en rappelez par la mémoire de vos parents, étant donné que nous n'étions pas nés. En 1972, il y a eu un crash dans la cordillère des Andes, avec une équipe de rugbyman, effectivement. Donc en plein milieu du glacier, ils avaient une radio, les pauvres, ils arrivaient à entendre ce qu'on leur disait, mais eux n'arrivaient pas à communiquer. Ils ont entendu au bout d'une semaine qu'aucun hélico ne viendrait les sauver, parce que comme l'avion était blanc et qu'ils étaient dans la neige, on n'arriverait pas à les retrouver.
Et sympa, donc, allez, démerdez-vous.
Exactement, et bisous. Donc ils ont décidé de se bouffer. Donc ils ont mangé les morts qui étaient conservés grâce au froid. Et ils ont mangé comme ça 6 ou 7 camarades, compagnons d'infortune. Et ce qui a été terrible, c'est qu'ils sont restés 72 jours là-bas, à se nourrir uniquement des personnes qui sont mortes pendant le crash. Et lorsqu'ils sont revenus, entre guillemets, dans le monde des vivants, donc vous imaginez qu'ils ont été extrêmement médiatisés, on leur a demandé comment avez-vous survécu. Ils ont mis un petit peu de temps à avouer qu'ils avaient, qu'ils s'étaient bouffés entre eux, et ils ont été extrêmement jugés par l'opinion publique. Ça a été terrible. Ouais. Alors,
ils n'ont pas eu des problèmes avec la justice, justement ?
Non, ils n'ont eu aucun souci. D'ailleurs, on parlera de la justice par rapport au cannibalisme un petit peu plus tard, et je pense que vous serez vraiment très étonnés.
Si ça vous intéresse, le retour psychologique que ça peut avoir, il y a le film Au cœur de l'océan, qui est assez récent, qui parle de ça. C'est l'histoire de Moby Dick, mais pas centré sur la baleine, mais sur ce qui s'est passé après le naufrage du navire, c'est-à-dire les mecs qui ont dû se bouffer entre eux et le traumatisme que ça a eu sous forme de flashback. Et ça parle exactement de ça.
Ah bah ça, je note, parce que c'est vrai que c'est le cannibalisme, on se rend pas compte, mais enfin c'est quand même un acte qui est clairement pas anodin du tout. Non, mais la plupart des personnes qui ont été confrontées, pardon, à du cannibalisme de survie, en fait, ont expliqué que l'instinct de survie prime. Et c'est vrai que nous, on a tous tendance à se dire, ah non, moi, j'arriverai pas à manger mon copain René. Eh bien, si, l'instinct de survie prend le dessus.
Bah, mais t'as la dalle, c'est de la viande.
Exactement.
Il y a un bouquin de Chuck Palahniuk qui s'appelle À l'estomac, si je dis pas de bêtises, qui parle
tout
de ça.
Fait.
Ils se retrouvent en huis clos et au final ils se retrouvent à couper des tranches de fesses d'une de leurs potes pour la manger. Et ils se rendent compte qu'après qu'elle est vivante alors qu'ils ont coupé des tranches de fesses.
Dommage.
Elle avait cuplé du coup.
Et qu'elle en a mangé.
Ne le juge pas.
Oh mon dieu. Alors, du coup, pour mettre un terme au fait qu'ils ont été extrêmement critiqués par l'opinion publique, eh bien le pape Paul VI. Le pape Paul VI a décidé en fait de les absoudre. De leur péché, de leur pardonner leur cause de cannibalisme, et ça a quand même pas mal calmé les gens. Voilà. Il y a également d'autres formes de cannibalisme, comme le vampirisme, mais qui mériterait un sujet entier à lui tout seul, donc je vais pas en parler.
Vampirisme,
genre Dracula.
Ouais, c'est chiant.
Oui, exactement. Bah, boire le sang, c'est du cannibalisme. Hein.
Ah,
voilà.
Oui.
À partir du moment où c'est du sang humain.
C'est vrai.
Et
est-ce que
nous sommes.
Tu te coupes toi, est-ce que quand tu bois ton propre sang.
Oui, c'est de l'auto-vampirisme, et ça compte comme du cannibalisme.
Tu fais bien de poser la question, je me demandais, quelqu'un qui ronge ses ongles, est-ce que c'est compté comme du cannibalisme ou non ?
Ça dépend si tu
les
manges.
C'est de l'auto-bouillon d'os, on en a déjà parlé.
Quelqu'un qui mange ses crottes de nez, est-ce que c'est considéré comme du cannibalisme ?
Après, je pense pas, parce que c'est une sécrétion en dehors de ton corps.
Ah. Alors si quelqu'un a la réponse, c'est merci de nous l'apporter.
En tout cas, moi, quand je me coupe le doigt, ça m'arrive régulièrement de me le lécher pour pas mettre du sang partout. Je sais pas vous, mais.
Par rapport aux crottes de nez, on pourrait faire le lien avec les gens qui boivent leur urine.
Oui, c'est vrai.
J'y ai pensé, j'ai pas osé le dire, mais je suis
le matin. Les urophiles, c'est ça ?
Oui. Alors, justement...
Ah non, les urophages.
Il y a une forme de cannibalisme qui ressemble entre guillemets plus ou moins et qui peut vous intéresser, c'est la placentophagie.
Ah non.
Okay,
et oui.
Comme les chats.
Le fait de manger son placenta après l'accouchement. Non, voilà.
Il y en a qui adorent s'enfoncer des steaks. Et il me semble qu'il y avait une mode aux US.
Exactement.
Moi, c'est ce
que j'allais
dire. Ouais.
C'est tout à fait à la mode aux États-Unis. C'est à la base de la médecine chinoise. Et on raconte qu'après l'accouchement, la femme, on lui cuit son placenta, on lui met dans une assiette. Ouais, on lui cuit, hein, par contre, tu vois, on est
avec
sympa
des,
quand même.
Avec des patates douces,
un fond
de crème. On lui mange et apparemment c'est très très bon et elle pète le feu après. Elle a même pas besoin de prendre son congé maternité, donc c'est plutôt bien fait. En France, on a des femmes qui
c'est donc une invention
faire.
Libérale, on est
d'accord. En France, on a des femmes qui veulent le faire, mais en fait, si vous voulez le faire, chères auditrices, en fait, il faudra accoucher seule chez vous, étant donné qu'à l'hôpital, on refuse de donner le placenta si vous le demandez après votre accouchement.
Ouais, parce que les bocaux, ça coûte cher, c'est chiant.
Et puis imagine, c'est meilleur que la bouffe de l'hôpital, ils auraient la loose, quoi.
Et c'est marrant de demander un doggy bag, mine de rien, après son accouchement, je trouve que le concept est sympa. Voilà. Et donc, par exemple, les Inuits, toujours aujourd'hui, le peuple inuit le fait énormément parce qu'on raconte que si une femme après un accouchement ne mange pas son placenta, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant.
Non, oui, c'est logique. Ça fait sens.
Oui. Voilà. C'est la base.
Oui.
Alors dans l'histoire, il y a toujours eu, dans l'histoire du monde, du cannibalisme. Et de toutes ces formes de cannibalisme dont je viens de vous parler. On a également eu du cannibalisme en cas de famine, donc pendant la Révolution française, on en a bouffé du monde à Paris pendant la Révolution française, hein, ça c'est un sujet, en Russie dans les années 20, mais le cannibalisme qu'on a le plus aujourd'hui, c'est le cannibalisme criminel. C'est-à-dire, je bute mon voisin et je le bouffe pour voir ce que ça fait. Je vous ai chopé des petits cas, croustillants.
J'aime c'est... bien que ça croustille, des spéciales cas.
Croustillants et fondants. oh mon dieu.
Ah si, elle était bien. Croustillant, des cas croustillants, c'est des spéciales cas. Je suis désolé.
Ouais, ta gueule.
Bien, on les garde. Qui varie dans le temps. Donc on a par exemple une anecdote très très vieille qui s'est produite en 1380, retour au Moyen-Âge, qui s'est passée à Paris, rue des Marmoussets. Alors la rue des Marmoussets, elle existe encore, elle est derrière Notre-Dame de Paris.
Absolument.
Donc c'est une anecdote en fait qui nous raconte qu'un barbier qui vivait là, a fait commerce de viande en égorgeant les étudiants de passage avec son voisin pâtissier. Donc on peut se dire, tiens, un pâtissier qui a besoin de viande, c'est un peu bizarre, mais un pâtissier au Moyen-Âge, c'est un traiteur, en fait. Hein. Donc il va vous faire des tourtes salées, ce genre de choses.
Mais c'est comme Sweeney Todd, en fait.
Exactement. Ah oui. En fait, c'est l'histoire qui inspire l'homme qui a écrit Sweeney Todd au 19e siècle. Il est venu à Paris, il a entendu parler de cette histoire et il s'est dit, mais c'est génial, je vais en faire un opéra bouffe. Donc les opéras bouffe, c'est
bouffe, excellent, bravo, génial.
Merde. Je viens vraiment d'apprendre un mot, j'avais jamais entendu opéra bouffe.
Non, opéra bouffe, si. C'est les opéras c'est un petit peu comiques, voilà, un peu comique, un peu poète-poète, genre Offenbach. Voilà.
Oh, les provinciaux.
Lâche un peu la télé.
Peux-tu nous rappeler d'où tu viens, s'il te plaît?
Du Maroc, en l'occurrence.
Bah, dans le genre province,
c'est ce, ouais, c'est ce que j'allais dire, cherche-la la province.
Niveau opéra, on n'est pas au taquet.
Et donc, au final, les deux bonhommes ont été rattrapés par la justice, ils ont été arrêtés au Moyen-Âge, ils ont été brûlés en place publique, et on estime qu'ils ont buté un peu plus d'une centaine d'étudiants, hein, donc il ne faisait pas bon être à la Sorbonne à cette époque.
Ah bah si, pour ceux qui voulaient être boursiers, il faisait bon.
Mais, mais bon. On a également un drame un petit peu plus récent qui se passe au 19e siècle, qui s'appelle le drame de Hautefay. Alors celui-là, je voulais vraiment vous en parler, parce que je trouve que cette histoire est complètement hallucinante. On est dans un petit village perdu en Dordogne. Je ne sais pas situer la Dordogne sur une carte, d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me dire où c'est?
C'est quoi une carte?
Il me semble que c'est en France.
Bah, c'est en France.
C'est pas genre pas très loin de Limoges, Bordeaux,
d'accord.
Et un peu plus au centre, quoi.
D'accord.
Limoges, c'est en bas à gauche.
On vient nous signaler par un fils désert qu'on était dans
c'est
ce
d'accord. Okay. C'est entre l'Auvergne et Bordeaux.
Ouais, puis au final, on s'en fout un peu.
Putain, vous voulez jouer ça, allez Google et puis merde.
Alors, on vous mettra un lien vers Google Maps qui vous explique
savoir où est la Dordogne.
Qui trouve la Dordogne.
Qui conduira en Dordogne.
Périgueux et Bergerac.
Vous
voyez le vin rouge qui coûte 3 euros là au Carrefour? Bah, c'est
bien là-bas.
C'est à l'est de Bordeaux.
J'espère qu'on n'a pas d'auditeurs qui viennent de là. Sinon, on les a perdus.
Désolé.
Alors, si c'est le cas, je vais leur raconter une jolie histoire
Je viens de Franche-Comté, donc j'ai rien à dire.
Donc ça, je pense qu'on va me faire la vanne environ chaque épisode.
Non, mais c'était pas toute seule. Il y a quelqu'un dans l'audience ici qui vient de
Franche-Comté. La Franche-Comté en puissance.
Non.
Très bien. Alors, donc, le drame de Hautefay. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui, sur un énorme malentendu à la foire du village, s'est fait torturé et lynché par une trentaine de personnes, cuire et bouffer.
Ah, le chili con carnaval.
Pendant la foire.
Mais qu'est-ce qu'il avait fait?
Alors en fait, on était en pleine... C'est à l'époque de Napoléon III.
Ridicule.
Non, et on était en pleine guerre contre les Prussiens. Et on a soupçonné cet homme d'intelligence avec l'ennemi parce qu'il avait fait des vannes... l'effet du mont noir, en fait, tout simplement, qui a été extrêmement mal perçu. C'est vrai. Et les gens ont pété les plombs. C'est-à-dire que je vais vous passer un petit peu tout ce qui lui a été fait, mais non, je vais pas vous le passer d'ailleurs. Il a été étranglé, il a été plus ou moins éventré et déséventré. Donc ça, il était vivant. On l'a
déséventré en...
Oui, c'est-à-dire on a tout remis à l'intérieur, quelque sorte. Okay. Voilà.
On a éboosté un coup, puis hop.
Et on l'a ferré. Alors moi, j'ai trouvé que c'était quand même extrêmement violent. On l'a ferré. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que comme les chevaux, on lui a mis des fers à cheval sur les pieds. Avec des coups. Voilà.
Et ensuite, par contre, t'imagines l'économie en chaussures.
Ouais, alors, il n'était plus là pour le voir. Et donc tout ça a duré 2 heures. Et ensuite, on l'a cramé, on l'a bouffé. Et 20 minutes après l'avoir mangé, pouf, la folie meurtrière du village est descendue. Les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il y avait des enfants dans le tas. Et donc, on est allé chercher le juge le plus proche et tout le village a été jugé. Donc, ça va de petites peines de prison à plusieurs exécutions à la guillotine.
Mais pourquoi ils ont eu des peines différentes alors qu'ils ont tous participé?
Non, parce qu'il y en a qui ont été plus hargneux que les autres. Et alors, les enfants, allez là, je vous fais le dernier petit détail sympa, se sont dit que c'était dommage quand ils ont vu le corps cuire. Et ils ont vu la graisse qui s'écoulait, ils se sont dit c'est dommage de perdre autant de bonne graisse, et donc ils se sont fait des petites tartines de gras sur du pain.
Alors je tiens à faire juste une petite virgule. Jusqu'à présent, d'après le retour de nos auditeurs, la rubrique de Camille, c'est la favorite. Pourquoi? C'est quoi votre problème?
C'est cinglé, putain.
Ouais, là, au niveau du vomi, on est pas mal.
Donc pour ceux que ça intéresse, il y a un journaliste qui s'est intéressé à ce sujet, un journaliste romancier qui s'intéresse beaucoup à différentes questions historiques, qui s'appelle Jean Tellet, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Mangez-le si vous voulez », qui parle de cette histoire-là. Le bouquin fait maximum une petite centaine de pages, donc ici en 2 jours. Et il est vraiment intéressant, il vous raconte vraiment toute l'histoire, donc je vous invite à le lire. En histoire de cannibalisme, on a également une assez célèbre qui s'est passée à Paris, l'affaire Issei Sagawa. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà, un étudiant japonais qui a buté sa copine et qui l'a bouffée et qui a dit plus tard au juge « Rien n'est aussi délicieux ».
Alors, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais il me semble qu'il y avait des Américains, si je ne dis pas de bêtises, où en fait ils ont signé un contrat où ils se sont accordés. Il y a un mec
On va y venir.
Ah bah ouais. Du coup, je te laisse faire.
Donc, ça marche.
Je l'attends depuis tout à l'heure.
On va y venir. Ce sera la chute. Et également, dernière petite histoire en France, on en a une assez récente qui s'est passée en 2007. Il s'agit de Nicolas Cocagne.
Oh, qui était. Le mal de Cocagne
qui
prend de la drogue.
Qui était à la maison d'arrêt de Rouen pour une histoire de viol, tout simplement. Voilà. Nicolas Cocagne s'est pris la tête avec son codétenu dans sa cellule à la maison d'arrêt de Rouen pour une affaire de WC bouché à cause du PQ. Voilà.
Ah ouais, et 2 feuilles maximum, putain.
Et du coup, il a buté. Son coloc et il s'est dit bah tiens je vais essayer de le manger, et donc il lui a mangé moitié de poumon et des muscles intercostaux.
Pas mal.
Et il s'est dit cuit ça doit être mieux. Comment?
Des ribs.
Il s'est fait des petits ribs, exactement. Et il s'est dit après que cuit ce serait mieux, et donc il les a fait cuire sur son réchaud de cellule avec des petits oignons.
Attends, mais les gardes ils faisaient quoi?
Et ben je sais pas.
Est-ce qu'il a fait?
Et donc il a dit à son psychiatre que ça avait un goût de cerf. Voilà, ami chasseur.
Ah, cerf.
Ah, ça donne envie d'être cannibale parce que ça défonce le cerf.
Mais t'as vu prix du bordel en plus.
T'as vu prix du gentil en plus.
Le cannibalisme va également inspirer pas mal de mythes. Alors, des mythes, il y en a plein, plein. Donc, il y a les légendes de.
Les mythes sur les vêtements.
C'est à des mythes qui s'inspirent, ouais.
Non, les mythes, les légendes.
Donc,
on a par exemple celle de Sweeney Todd dont je vous ai parlé. Maintenant, vous savez qu'elle vient de Paris. Mm-hmm. Et surtout, moi, ce qui m'a étonné, le petit chaperon rouge. À la base, c'est une histoire cannibale.
Bah oui.
Ah ouais.
Ah bon? Mais où est-ce que tu vois le cannibalisme, toi?
Bah, il me semblait que le loup, c'était pas censé être un loup, c'était censé être la personne qui était censée pervertir la gamine, et du coup, c'est censé être un homme.
Et non, ça, c'est la version du 19e siècle. La première version.
Oh bah, pardon!
Oh bah, oh, j'aurais dû le savoir!
Mais non, finalement, maintenant.
La toute première version du petit chaperon rouge, elle date du 14e siècle, donc de la fin du.
Moyen-Âge.
15e siècle. Oui, du Moyen-Âge.
Merci.
Et donc, en fait, dans cette histoire, le loup arrive avant le petit chaperon rouge, bute la grand-mère. Et quand il arrive, quand le petit chaperon rouge arrive, donc le loup a revêtu le costume de la grand-mère et lui dit « Tiens, je t'ai préparé quelque chose à manger. » Et lui fait bouffer la grand-mère.
Allez.
Quel enfoiré.
Eric Cartman.
Et ce qui est terrible, c'est que du coup, il lui sert de la chair de la grand-mère et un petit verre de jus de fruits. Et donc le jus de fruits, c'est le sang de la grand-mère. Et elle voit qu'il y a des dents.
Ah, c'est dégueulasse.
Elle lui dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et ça, c'est dans la vraie version médiévale.
La vraie version.
Et il lui répond que c'est des haricots.
C'est de la pâte d'amande. Il n'y avait pas de blender à l'époque, forcément.
Voilà.
Ouais, vas-y, fous des noms dans un blender, tu vas voir ce que ça donne.
Will it blend?
Alors. Du coup, j'aimerais qu'on termine en s'intéressant un petit peu au cannibalisme selon la loi. Vous allez voir qu'en fait, en France, c'est un petit peu touchy. Le premier texte qu'on ait dans l'Europe qui parle du cannibalisme en mâle et qui l'interdit, il date de 789, c'est le capitulaire de Charlemagne. Oui.
Je me permets une remarque parce que tu dis le premier texte qui parle et tu précises en mâle. Il y en a qui en parlaient en bien avant.
Je ne pense pas, mais bon, sait-on jamais, d'accord, j'ai préféré préciser.
Dans le doute.
Voilà, dans le doute.
Merci, professeur connard.
Non, j'ai eu un doute, une inquiétude, une crainte.
C'est le capitulaire de Charlemagne, du coup, qui date de l'époque de Charlemagne et qui nous dit que manger son prochain, c'est pas bien. En gros.
Ok,
aujourd'hui,
les juristes à l'époque, ils étaient au taquet.
Bon, alors, mange pas ton copain, tout se passera bien.
Aujourd'hui, le cannibalisme est interdit dans la plupart des pays du monde. On a deux pays assez puissants où il y a une énorme faille à ce sujet-là. C'est l'Allemagne et la France.
Quoi ?
Étant donné qu'en France, le cannibalisme n'est pas illégal et en Allemagne non plus.
What ?
Sérieux ?
Exactement. Ce qui est illégal en France, c'est de tuer quelqu'un. Donc si on bute quelqu'un pour le manger, c'est pas bien. Mais si on mange quelqu'un avec son consentement ou si on mange quelqu'un de déjà mort, en théorie, on peut pas vous poursuivre.
Mais dans l'absolu, oui, pourquoi ça serait mal de manger un mec qui est mort ? Il est mort, quoi. Si tu l'as pas buté pour ça, ouais, c'est immoral, mais de là à être hors la loi, c'est une dénonciation.
C'est quand
différente.
Même un petit peu vicieux.
Ça va faire chier ta famille déjà.
Parce que
toi, ça va pas te faire chier, c'est sûr.
Ouais, mais il y a une notion qui. Oh, d'accord, c'est dégueulasse.
Non, je pense que ça a un rapport avec la religion, surtout, non.
Je ne mangerai aucun d'entre vous, soyons clairs. Mais c'est vrai qu'il y a une limite qui est intéressante entre ce qui est immoral et illégal.
Non, mais pour moi, ça vient surtout de la religion. J'imagine que dans la religion chrétienne, typiquement, tu profanes le corps.
Ouais. Enfin, excusez-moi, les gars, je suis super ouverte d'esprit, mais là, ce que vous dites. Enfin, non.
Bah, non.
Non, mais la loi, c'est censé être pour régir la société. Mais qui est mort, bah écoute.
Oui, non, mais ça veut dire que tu peux aller profaner des tombes, déterrer des gens et puis les bouffer.
Ouais, mais c'est gâché.
Non, parce que profaner une tombe, c'est illégal.
Mais voilà, en fait, on utilise du coup ce genre de petites choses pour niquer les cannibales, en quelque sorte.
Non, enfin, non, pas niquer, mais.
Par exemple, merci, on utilise l'article 222 du Code pénal qui dit que toute torture à autrui, etc., est interdite. Donc, du coup, on peut pas faire de cannibalisme sur quelqu'un de vivant, par exemple.
Bah, il me semblait que le 222, c'était pas vu, pas pris.
Eh ben non, mais Wesh. Vous allez voir que le souci, au final, des fois, il y a des failles qui sont vraiment importantes. Donc, Ilias, tu mentionnais tout à l'heure cette histoire de deux Américains. Oui, il fait une chaleur de pute.
Mais vraiment.
Je tiens juste à vous préciser, c'est insupportable.
On est on fire. Le podcast s'arrête dans 5 minutes. Hein,
on est tous torse nus là. Hein.
Voilà.
Syncope. Qui va manger l'autre ?
Et donc, en fait, l'histoire dont tu me parlais, Ilias, ne se passe pas aux États-Unis, mais chez nos voisins allemands.
Ah.
Donc, c'est une affaire qui a dû se passer à Rothenburg parce que ça s'appelle l'affaire du cannibale de Rothenburg. Et donc, en fait, on a un Allemand qui s'appelait Armin, enfin, qui s'appelle Armin Meiwes, et qui, à partir de la fin des années 90, a pris pour habitude de poster des annonces sur Internet pour trouver quelqu'un qui serait
tout à
chaud
fait.
Pour être mangé.
On a tous entendu parler de ça, je pense.
Totalement. Et donc, il va finir, après plusieurs années de recherche, à trouver quelqu'un qui est d'accord, donc un homme, un ingénieur berlinois de 42 ans. Il le trouve d'ailleurs sur le site The Cannibal Café. Je trouve ça plutôt génial. J'ai pas eu le temps de googaliser la chose, mais je vais aller voir ce qui se passe là-dessus.
Fais-le à la BU, hein, parce que si tu le fais chez toi, il y a des mecs qui vont dire ça dès le lendemain matin.
Et donc, ils vont se rencontrer chez le cannibale, chez Armin Meiwes.
Bonjour, bienvenue.
Ils vont avoir des rapports sexuels. Et au final, les deux hommes se disent, bah tiens, si on bouffait une bite, mais au sens propre du terme. Donc ils vont couper la bite de l'ingénieur de 42 ans, ils vont se la faire en salade, donc pareil, hein, là ce n'est pas imagé, en salade,
mais non,
il y a ce...
Le gévier.
Non. Mais j'imagine juste, alors, déjà quand tu prépares à bouffer, tu peux être concentré dans ce que tu fais, même si c'est un plat exotique, ok. Mais quand tu coupes la bite, il y a d'autres problèmes, bah, autres justement que de faire cuire le bordel.
Non, mais ils ont dû faire une petite anesthésie locale.
Mais il devait pisser le sang à sa mère. Fin...
Ah bah oui, mais alors tu vas voir que ça n'a pas été un problème pendant très longtemps, étant donné qu'ils ont mangé le chibre en
le
question.
Le free-free.
Voilà, le free-free. Et ensuite, une fois qu'ils ont fini le repas, eh bien, le cannibale a dit, bon bah du coup, je te bouffe en entier. L'autre a dit oui, ils sont allés dans la cave. L'autre s'est laissé buter. Et notre cannibale, il s'est fait ses petits sacs de congélation.
Okay.
Et il a été dénoncé par un voisin. La police est arrivée chez lui et ils ont retrouvé le congélateur plein de...
Moi, je suis moins choqué par le gars qui l'a mangé que le gars qui a dit...
Ouais.
Vas-y, ouais. Non, mais vas-y, j'ai une sale semaine. Vas-y, tu me butes. Tu fais des petits sacs de congélation.
Mais
voilà.
Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour ?
Comment il a prouvé que le mec était consentant ?
Bah parce que en fait, ils avaient filmé toute la scène, 9 heures de vidéo. La
sympa.
Police a dû passer.
Oh, le podcast, de l'horreur, quoi.
Regarde maman,
c'est un snuff movie.
Je fais un petit bisou aux enquêteurs qui se sont tapés ce truc-là parce que. Ils ont dû passer une sale semaine. Biguette.
J'ai une petite anecdote à ce sujet.
Ah, nous sommes toutes oui.
Ah, j'étais là.
Vous connaissez le groupe allemand Rammstein ?
Oui.
Ah, yeah.
Oui.
Ils ont fait une chanson Mein qui s'appelle Mein Teil et qui parle de cette anecdote justement.
Ah, absolument.
Cette histoire. Mein Teil, ça veut dire mon morceau.
Oh ben, la vache.
T'assistes Mein Teil, nein, c'est mon morceau, non, machin.
Très bonne chanson d'ailleurs.
Alors, au final, il y a le problème du qu'est-ce qu'on fait de ce mec ? Est-ce qu'on le juge ? Enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour le condamner ?
Mais ce qu'on dit, la différence entre immoral et illégal.
Ben oui, mais là, ça pose quand même problème. Donc, au début, lui et son avocat, ils ont plaidé pour homicide sur demande. C'est-à-dire que l'autre homme lui a demandé de le buter.
Mais tu peux être inculpé pour homicide sur demande.
Alors, il a été inculpé pour homicide sur demande, ce qui était une première en Allemagne et probablement en Europe, je pense. Et au final, il a été condamné à une peine minuscule pour homicide involontaire.
Ça n'a aucun sens.
Mais alors toi, je pense que si tu regardes les détails du procès, j'ai beaucoup pensé à toi. Je pense qu'il y a moyen que ça te plaise énormément.
Ouais, totalement.
Tu vas kiffer le droit allemand.
Non, mais voilà, faut vraiment éplucher. Je pense que moi, de mon côté, je vais éplucher encore plus parce que c'est assez passionnant.
On vous laissera éplucher.
Voilà, éplucher.
Et moi, j'écouterai Rammstein
à côté si
vous voulez.
La famille de la personne qui s'est faite manger a décidé de poursuivre à nouveau cet homme en justice. Et il a été recondamné il a pris perpète au final pour homicide.
On vous laisse tranquille si vous nous donnez la recette des samoussas à la bite.
Donc là, il est actuellement derrière les verrous. Peut-être il nous écoute, je ne sais pas.
Et non, du
anecdote,
coup, non.
Anecdote assez rigolote. Il est devenu végétarien depuis 2007. Donc voilà, sur ce, pardon maman, vous souhaite un très bon appétit à vos fourneaux.
Putain, sympa.
C'est tout pour moi.
Un excellent appétit.
Merci Camille.
Mais
merci,
je vous en
Camille.
Prie.
Camille. Maintenant, on va passer à un magnifique sujet de Juan.
On va passer d'un super sujet à un magnifique sujet.
Mais laisse-moi faire une gradation, tu veux.
On devrait déjà être en tournage là.
Silence plateau, s'il vous plaît. Moteur.
Ça tourne.
Évidemment, toi.
Je comprends rien.
Il va falloir que tu me fasses un dictionnaire des expressions, sinon je vais pas suivre.
Coupez. Bon, on la refait tout de suite.
Alors moi, je vais vous expliquer comment survivre sur un plateau de tournage. Ça paraît un peu con comme ça, mais imaginons un jour, vous voulez rendre service à un copain, ou vous avez un job en intérim, qui sait, vous vous retrouvez sur un plateau de tournage, et comme dans beaucoup de métiers, vous allez vous rendre compte que le vocabulaire est très très différent du vôtre. Je vais vous faire écouter une petite phrase qui vient d'un tournage, qui a été enregistrée par un collaborateur, et vous allez me dire si vous comprenez un mot dans cette phrase.
On casse ! Eh, le nouveau ! Tu vas t'occuper des chochottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute. Puis il tire à borgnoler après. Et tu dis à Michel de checker les barbouladous.
C'est imbitable. Ouais, j'ai compris borgnoler, mais uniquement parce que j'ai un bon ami qui m'a expliqué ce que je voulais dire, mais c'est un putain de bitable.
Moi, on casse, pour moi, ça veut dire on arrête, on coupe,
c'est
on
bien.
Fait une pause.
On rend le jeune, quoi.
On y arrive. Je vais vous refaire écouter la phrase une fois, puis après, je vais vous faire un petit détail quand même.
On casse. Eh, le nouveau ? Tu vas t'occuper des chochottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute. Puis il tire à borgnoler après. Et tu dis à Michel de checker les barbouladous.
Alors, est-ce que je peux poser une question ? Est-ce que cette séquence a été enregistrée dans les années 30 ? Parce que j'entends un peu de jazz derrière.
Alors, elle a été enregistrée il y a exactement 4 heures. Donc, on va faire un petit guide de survie au plateau de tournage. On va revenir sur quelques mots. On va commencer facile. Je vais vous donner un mot. Vous allez essayer de me dire ce que ça peut vouloir dire. Par exemple, si je vous parle de gaffeur. Ça vous parle ?
Oui,
c'est
du scotch.
C'est le scotch. Le
du
gros scotch.
C'est quoi la particularité de ce scotch ?
Il est gros et
il est noir,
il me semble qu'il y a une trame de fil pour qu'il soit ultra solide.
En effet, il est très solide et surtout il est en tissu. C'est pas du scotch, c'est du tissu en fait avec un autocollant dessus. Et c'est ce qui le rend aussi solide. Et pourquoi ça s'appelle du gaffeur ?
Parce que pour éviter les gaffes.
Oh.
Ça pourrait, mais pas du tout, finalement. En fait, le gaffeur, c'est un poste. En anglais, ça signifie le poste de chef éclairagiste sur un tournage. On appelait ces mecs-là les gaffers. Donc, c'est une déformation française du poste de gaffeur qui est en fait chef éclairagiste sur un tournage.
Et donc, on disait « bring me the gaffer ».
Là, ça voulait dire « amène-moi ce mec-là », donc c'était pas très poli, mais admettons. Alors, vous avez peut-être entendu à la fin de la phrase, il a utilisé un terme très particulier, c'était les barbouladous.
Moi, j'ai abandonné déjà au bout de 5 secondes. Enfin,
ouais. Barbouladou, ça fait un peu recette de soupe à l'oignon.
Ça fait un peu Glooby Boulga.
Ouais.
Bigoudi.
Alors, je vais vous le diviser en deux. Bar, Bouladou.
Ah, c'est vraiment une bar, Bouladou ?
Ouais.
Ouais, mais ça doit être le nom d'une bar particulière.
Absolument.
C'est une bar avec des boules sur les côtés et qui sont un peu molles. Donc des barres, boules.
Ce ne sont pas des boules particulièrement douces, non. En effet, c'est une barre télescopique. Vous avez déjà vu les barres de traction qu'on met entre deux portes,
ouais.
Qu'on déroule comme ça, clac. Alors c'est ce type de bar là, mais Bouladou en fait c'est un nom propre. C'est le nom du fondateur de la société Cinésil qui loue du matériel de tournage. Et en fait c'est une barre qu'on peut tendre entre deux murs pour pouvoir accrocher des projecteurs. Parce qu'on peut pas accrocher des projecteurs à ton plafond directement. Donc on va tendre une barre Bouladou entre deux murs pour voir. Ouais c'est con comme nom, on est d'accord. Ensuite, la brute. Parce qu'on l'a eu dans la phrase.
C'est le mec un peu costaud là, le gros chauve.
Et non, c'est pas une personne.
C'est le son ou l'image non traitée avant la post-prod.
Ça pourrait, mais non.
Est-ce que tu peux rappeler le contexte de la brute?
C'est juste après Barbouladou, je crois.
Ah.
La brute, c'est un projecteur.
Ah, un qui serait très fort.
Qui serait très fort, c'est un projecteur arc. À la base, c'était un projecteur qui fonctionnait avec du charbon et on s'en servait pour éclairer les côtes maritimes. Tu vois, l'énorme projecteur.
Avec du charbon pour les bateaux. Côtes maritimes.
Exactement.
Dans un phare, quoi, non?
Mais il y avait la forêt amazonienne dans le putain de brute.
Non, et en effet, il y avait des compétitions à l'époque sur les techniciens qui s'occupaient de ce projecteur-là pour savoir avec une quantité de charbon qui allait réussir à le faire brûler le plus longtemps possible. Et ce projecteur est très très puissant, on appelait ça la brute. En revanche, dans une moindre mesure, on a la blonde.
C'est la stagiaire.
Eh ben non, la blonde, c'est pas la stagiaire.
Je m'excuse de cette remarque.
C'est un projecteur aussi. C'est un projecteur qui, on l'appelle la blonde parce qu'il est jaune, en fait. C'est un projecteur qui fait à peu près 2000 watts et dont la carrosserie est jaune. Et on l'utilise énormément. Et peut-être que vous avez entendu parler de sa petite sœur qui s'appelle la mandarine.
Oui.
Un peu orangée.
Non. C'est juste qu'elle a une forme de demi-mandarine, on va dire. Mais la blonde, c'est un gros projecteur. La mandarine est un peu plus petite. Mais c'est aussi le nom qu'on donne au projecteur le moins cher. Si demain, tu veux faire ton petit studio à la maison... tu vas t'acheter une mandarine. C'est le projecteur le plus basique qui soit. Alors, je vais vous refaire écouter la phrase de début. On va essayer de capter deux ou trois mots avant que je vous les explique.
On casse. Et le nouveau, tu vas t'occuper des chochottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute. Puis il tira borgnoler après. Et tu dis à Michel de checker les barbouladous.
Ah, j'ai retenu chochotte et gueuse.
On est mieux, là. Déjà, on en a quelques-uns.
Ça va déjà un peu mieux.
Bon, très bien. On va passer aux chochottes. Il parlait de s'occuper des chochottes de la blonde. Alors on sait ce que c'est que la blonde maintenant.
Est-ce que ça serait pas les petits panneaux sur les côtés du spot?
Nope.
Ok.
Alors c'est un peu complexe. Les chochottes en fait, ça va être des petites bandes de tissu qu'on va. Imaginons, on a un projecteur, on va agiter des petites bandes de tissu devant et ça va donner l'effet d'une cheminée, d'un feu.
Ah ouais. Okay.
Si tu déplaces des petites bandes de tissu devant un projecteur, ça va faire onduler ta lumière et tu vas pouvoir faire croire que il y a une cheminée dans la pièce et que la lumière vient d'un feu.
Il est vachement sceptique, mais t'as moi je fais confiance à Juan.
Ouais, je te montrerai à l'occasion, mais là comme on est sur un concept radiophonique, je peux pas te montrer ce que c'est que des chochottes.
On vous fera une vidéo, ouais, promis.
On vous enverra ça en image, en vidéo ou en GIF.
On va faire une pause au milieu de la phrase. Je vais vous parler d'un mot qui s'appelle le catering ou le catering, en français.
C'est la bouffe. Ouais.
Ah bah là tout le monde sait ce que c'est. Ah, voilà qui est étonnant.
C'est le buffet.
Le catering, la bouffe, qui est la chose la plus importante sur un tournage. Alors,
qui se passe à quelle heure?
Hop.
À midi 6, le catering de midi 6.
Le catering de midi 6. Merci.
Oh, elle est géniale, oui, cette blague.
La vague bouffe est pas du tout préparée. Merci beaucoup.
Ok, alors, bah du coup, je compte sur toi. Yes, tu vas me parler du borgnole.
Ah, alors, de ce que j'en ai compris, c'est le fait d'occulter des sources de lumière.
Absolument.
Pour, en fait, ça s'arrête là pour les occulter.
Absolument. Alors, d'où ça vient, le borgnole? Ça vient d'un monsieur qui s'appelait Henri de Borgnole, qui tenait une entreprise de...
Borgnole.
Non, fenêtre. Le borgnole n'est pas un artisanat. L'entreprise de pompes funèbres.
Putain,
rien à voir.
En fait, Henri de Borgnole utilisait ces petites mécaniques pour occulter les fenêtres et autres des habitations pendant les funérailles. Et du coup, les techniciens audiovisuels venaient se fournir chez ces pompes funèbres pour acheter ce qu'on appelle maintenant des borgnoles et qui servent en fait à occulter la lumière extérieure. Imaginons, on est dans un salon, on veut tourner une scène de nuit, il faut qu'on cache les fenêtres. Pour ça, on va mettre des grands draps noirs, et ces grands draps noirs, ça s'appelle des borgnoles. Donc on va borgnoler une fenêtre.
D'accord.
Ça va?
Ça va, juste
rien à voir avec le fait d'être borgne.
Eh non.
Non.
Je pensais que ça venait de là, tu occultes un œil sur les deux.
Je pense aussi.
Alors je vous remets encore une fois l'intro pour voir si les mots que vous auriez ratés.
On casse. Et le nouveau, tu vas t'occuper des chochottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute. Puis il tira borgnoler après. Et tu dis à Michel de checker les barbouladous.
Alors qu'est-ce que c'est, Monka?
La gueuse.
Qu'est-ce que c'est la gueuse?
Je gueuse la brute. J'ai déjà oublié ce que c'était la brute.
La brute, c'était un gros projecteur.
Ah oui, avec le charbon là. Je gueuse la brute.
La déplacer?
Non.
Est-ce que c'est un rapport avec la bière gueuse?
Non.
La mettre en route?
Non plus.
L'éteindre?
Qu'est-ce qui peut se passer avec un énorme projecteur posé sur un pied assez frêle?
Qui crame, ouais.
Non. Enfin, ça peut arriver, mais...
Est-ce que ça rapporte...
Je répète, un énorme projecteur posé sur un pied assez frêle.
Ah, qu'elle se pète la gueule.
Qu'elle se pète la gueule. Coup, comment on l'empêche de se péter la gueule?
Eh ben, en la lestant.
En la lestant. Une gueuse, c'est un sac de sable qu'on va poser au pied d'un projecteur.
Ah, ok.
Pour empêcher qu'il se pète la gueule.
Putain, la vache.
Ah, on est pas mal. Bon, il m'en reste un ou deux pour le bonus. On va voir. Vous savez ce que c'est qu'un prop ou un prop?
Est-ce que c'est les propositions commerciales?
Non.
Non. Quand on dit touche pas les props.
C'est les accessoires.
C'est les accessoires, oh. Exactement.
Bravo.
D'où est-ce que ça peut venir?
De l'anglais?
Ouais. Ça vient de l'anglais. Non, en effet, ça vient de l'anglais. C'est property of the theater. C'était lorsqu'on allait voir une pièce de théâtre, il y avait des accessoires qui appartenaient à la salle qui produisait la pièce de théâtre. Et donc les props, ce sont les accessoires. En effet. Je vais aussi utiliser un petit dernier terme qui va pas forcément vous servir, mais qui m'a perturbé les premières fois que je suis allé sur un plateau de tournage. Lorsqu'on parle d'une brique chaude et d'une brique froide, quand on lui dit va me chercher une brique chaude,
c'est le jus de fruits.
Non. Rien, personne. Elle peut être chaude ou froide.
Non, non, tu nous auras pas comme ça. Tu nous tends une perche, je n'irai pas.
C'est une batterie de talkie-walkie.
Ah, donc
quand on te demande une brique chaude sur un plateau de tournage, parce que je rappelle que le but c'est de pouvoir survivre sur un plateau, si quelqu'un vous crie amène-moi une brique chaude, ça veut dire va chercher une batterie pour mon talkie-walkie.
Ah, qui est chargée, et brique froide, c'est qu'elle est vide.
C'est qu'elle est vide, donc j'ai une brique froide.
Ah,
en gros, ça veut dire si tu es assistant, bouge ta race d'aller me chercher une brique chaude pour que je puisse communiquer.
Putain, j'aurais dit l'inverse. Avec froide, elle est morte et chaude, c'est bon, elle est au taquet.
Ah, ben non. Donc je vais vous refaire écouter une dernière fois la phrase et je suis sûr que maintenant vous allez tout comprendre.
Ouais.
On casse. Et le nouveau, tu vas t'occuper des chochottes pour la blonde pendant que je gueuse la brute. Puis il tire à borgnoler après. Et tu dis à Michel de checker les barbouladous.
Génial. Ah.
Ça va.
Déjà, honnêtement, je comprends vachement plus que tout à l'heure, donc déjà, c'était vachement bien fait. Et surtout, je me rends compte que l'assistant, il prend méga cher.
Eh, hey, toi.
Hey, tiens, hey, faire ça.
Puis tu dis à l'autre de faire ça.
Ah, puis il y a une tâche sur mes pompes, alors hop.
Je suis très content que vous ayez compris cette phrase.
Merci beaucoup, Juan.
Merci. On va survivre sur un plateau de crème.
Avec plaisir. Oui.
Et bah, du coup, pour la suite, ce sera moi. Monica qui nous parlera de l'univers carcéral.
Ouais, ambiance.
Très content.
Quel cannibalisme.
Tu sais ce qui se passera si tu retournes en tôle?
Tu sais, pour moi, la prison, c'était un peu comme une maison de campagne.
La liberté, c'est de faire ce qu'on veut, y compris d'aller en tôle quand on en a envie.
Pas le choix, faut y aller.
Alors, la surpopulation carcérale, est-ce que ça vous parle?
Bah oui, on sait qu'il y a un peu trop de monde dans les prisons, en effet.
Ok. Donc, juste pour vous situer, j'ai trois points à vous communiquer. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, quelles sont les conséquences? Donc pourquoi c'est un putain de gros problème et ensuite, quelles sont les solutions qu'on peut proposer et lesquelles sont mises en œuvre? Alors avant toute chose, j'ai deux clarifications à faire. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire la différence entre la surpopulation carcérale et le taux d'incarcération?
Bah oui, parce que j'imagine que le taux d'incarcération...
C'est le nombre de personnes qu'on met en prison, la surpopulation, c'est pourquoi les prisons ne sont pas assez grandes pour y mettre autant de monde.
Mais donc en gros, la surpopulation, c'est le fait de mettre trop de monde dans un établissement par rapport au nombre de places que normalement il peut accueillir. Par exemple, dans un ascenseur, on dit vous pouvez rentrer à 4 et vous êtes 8 dedans.
Bah non, mais là il bloque l'ascenseur. Non.
Oui, personne ne fait ça.
Exactement. Donc les prisons finissent par bloquer. Ça correspond plutôt à la situation de la France. Et en comparaison, le taux d'incarcération, je vous fais la comparaison parce qu'on confond souvent, puisque bon, c'est des termes dont on n'a pas trop l'habitude. Donc le taux d'incarcération, c'est le nombre de gens qui sont en prison par rapport à la population générale du pays. Chacun sa tare, donc nous c'est la surpopulation, et pour le taux d'incarcération, c'est les États-Unis. Donc ils sont grands vainqueurs loin devant la Chine, puisqu'il y a...
Loin devant la Chine ?
Devant la Chine a 1,6 million de détenus, tandis que les États-Unis ont... plus de 2 millions de détenus sur 320 millions d'habitants.
C'est en énorme. 2016.
Ça fait 1%.
Violence. Putain, mais la population
1%
la population
des États-Unis est en prison.
Mais donc la population des détenus américains, c'est l'île.
Oui.
Ça doit être sympa comme ville.
Personne réagit, mais
tu connais beaucoup trop la population de l'île.
Non, mais je dis ça.
Beaucoup trop de l'île.
Non, mais je dis ça pour déconner, mais c'est moi. Enfin, c'est une ville, c'est une putain de ville, quoi.
Alors. Bon, après, c'est un pays qui est quand même beaucoup plus grand que la France, donc faut comparer, faut relativiser.
Non, mais un mec sur 100, c'est beaucoup, quand même.
Un mec sur 100, c'est beaucoup, d'où l'histoire du taux d'incarcération. En comparaison, en France, on est 0,1%.
Ah, c'est mieux.
C'est un peu mieux. Et donc, au sujet des États-Unis, c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Il y a une vidéo, pardon, d'une émission qui s'appelle Last Week Tonight with John Oliver. Alors, par contre, faut parler anglais. Mais c'est une émission extraordinaire. Vous tapez juste Last Week Tonight with John Oliver. Enfin non, bah non, on va vous passer le lien, pardon.
Oui, on vous passera le lien. Effectivement, bah, je déclare tout mon amour pour cette personne. Est-ce que tu vas décrire qui c'est ou pas rapidement?
Moi, je déclare pas mon amour.
Honnêtement,
je déclare mon putain d'amour pour cette putain de personne. Non, c'est un humoriste qui a joué dans les séries très sympathiques, mais voilà, qui a fait des sujets ultra intéressants sur la cryptographie, sur plein de choses super intéressantes, et c'est assez ouf.
Donc cette émission, on vous la transmettra. Ma deuxième clarification, c'était, est-ce que vous savez quel type de personne est en prison?
Bah, les condamnés.
Les méchants.
Non, pas les méchants, les condamnés.
Ok.
Les méchants
et
qui
les
sont
gens,
fait attraper.
Les gens en détention provisoire, est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont en prison? Oui. Et est-ce qu'ils sont condamnés?
Bah, pour moi, ils sont en prison, mais ils ne sont pas condamnés.
Attends, tu m'embrouilles.
Et pourtant, ils sont en prison. Donc, il n'y a pas que des condamnés en prison. Il y a aussi des gens qui sont présumés innocents.
C'est vrai.
Et pourtant, on a besoin de les mettre en détention provisoire pour diverses raisons.
Ils
n'ont
pas encore été jugés, mais ils ont été pris la main dans le sac.
Bah non, pas nécessairement.
Pas forcément.
Loin de là.
Est-ce que tu en es...
Ils sont suspects.
Est-ce que tu as un exemple de ce qui pourrait faire qu'une personne une suspicion assez grave pour qu'on l'emmène en prison plutôt que qu'on la laisse simplement en liberté conditionnelle ou
Alors, donc détention provisoire, effectivement, ça va être une question de preuve, mais ça va être un faisceau d'indices. Donc ça peut être... alors, un témoignage ne sera pas suffisant, mais ça va être... on sait que vous étiez sur les lieux du crime à ce moment-là. Enfin, il y a plusieurs raisons, oui.
Ou une suspicion de récidive, je crois. Par exemple, alors... si t'as déjà fait de la prison pour viol et qu'une nana porte plainte contre toi pour viol, on peut, en attendant, pour être sûr, t'envoyer, je crois...
Oui, alors il faudra quand même que ça se base sur un minimum de preuves.
Oui, voilà.
Sur les faits.
Mais en attendant,
actuels.
On peut t'envoyer là-bas parce que t'es considéré comme quelqu'un de dangereux.
En fait, ça va être
un risque de nuire à la société, en fait.
Exactement, ça va être basé sur la dangerosité. Mais dangerosité, qui est-ce qui l'évalue? C'est le juge, qui se base sur le procureur, etc. Et ça va être aussi pour des raisons de nécessité. Enfin, on veut être sûr que la personne va bien se présenter à son jugement.
Ah, ils ont peur.
Exactement.
Comme la crime.
Mais on peut pas justement. J'imagine que si, peut-être une remarque bidon, mais s'assurer qu'il reste dans le pays et le bloquer aux frontières?
Non.
D'accord.
Alors on peut, oui, mais ça va.
Faut espérer que ça marche.
Par rapport à Schengen et tout, ça va commencer à être compliqué parce que s'il part à pied ou en voiture, il y a plus de.
Oh, à pied pour aller en Allemagne, ça fait loin quand même.
Bah quand t'es à Strasbourg, non?
Boum, allez, prends
moi,
ça.
Moi, j'y suis allée à vélo. Hein.
Je la pète.
Voilà.
Oh là là.
Donc pour résumer, en prison, il y a des condamnés pour des longues peines, des condamnés pour des courtes peines et des gens qui ne sont pas encore condamnés, c'est-à-dire des prévenus et des accusés. Alors, juste pour vous situer, quelques chiffres clés. Donc, en France, on est 67 millions d'habitants et on a passé la barre des 70 000 détenus en avril dernier. Sachant que, de toute façon, ce nombre est en hausse constante depuis les années 80. Alors, parmi ces 70 000 détenus, à votre avis, combien sont en détention provisoire? C'est-à-dire en attente de jugement?
Ah, sur 70 000?
Ouais, en pourcentage ou
mille.
En chiffre.
Ouais, 1000, ça me paraît pas mal.
20 000.
Oh, ça
20 000
sa mère la pute.
Il y a 30% de gens en prison qui sont pas encore condamnés. Voilà. Oui.
Alors moi j'ai une question que je me suis souvent posée pour les personnes qui sont du coup en attente de jugement. Au jugement on dit ah bah non en fait t'es innocent et t'as fait 6 mois de prison. Comment ça se passe pour les dédommagements?
Il y a des dommages d'intérêt. Principalement financier, oui, tu peux
que
pas...
L'État, du coup, te file du pognon, quoi.
Tout à fait, ouais.
Il réévalue les salaires que t'as perdus, ce genre de conneries, en fait.
Je suis pas sûre qu'il réévalue... En fait, ça va être forfaitaire, ça va être... Parce qu'un chômeur va être remboursé de la même façon
que
quelqu'un qui a...
Ah, mais oui, je crois que j'avais lu ça, c'est une prime à la journée.
Exactement.
Chaque jour que t'as fait en prison...
pas une prime, mais un
remboursement. Vous fait un forfait.
Non, mais si, il me semble que c'est ça, que c'est la journée, tout à fait. Genre, t'es payé, je sais pas, 60 euros par jour que t'es resté en taule.
Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est 60 euros, mais
oui, députés ne veulent
j'ai
pas
dit un chiffre au hasard, mais voilà.
Tout à fait.
C'est vrai que les députés ne veulent pas être en détention provisoire, mais on glisse dans le politique.
Oui, mais de toute façon, les députés, ils seront condamnés. Enfin...
un jour, maybe.
Oui.
Dans un monde merveilleux. Alors, dans le vif, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la surpopulation carcérale? Donc, le parc pénitentiaire aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ensemble des établissements, en gros,
Est-ce que c'est comme le parc Astérix?
Non, pas vraiment. Merci.
N'hésite pas à l'interrompre à tout moment pour ce genre de conneries.
Donc, il compte 58 548 places opérationnelles. Donc 58 000,
et t'as
vu
dit
qu'il
qu'on était 70 000.
70 000, ça fait un taux de densité à 118% en moyenne.
Ce qui est problématique,
donc,
du coup.
C'est problématique, déjà. C'est quand même pas mal. Sachant que le code pénal, il exige qu'il y a une règle, c'est un détenu égale une cellule. Donc là, évidemment, on n'y est pas. ça fait 14 000 personnes en trop. Bon, on va dire c'est pas la mer à boire, c'est comme si dans notre ascenseur, il y avait 6 personnes au lieu de 5. Sauf que, numéro 1, il faut que je vous apprenne là, il faut que je vous apprenne la différence entre une maison d'arrêt et un établissement pour peine.
J'en ai aucune idée, du coup.
Alors,
putain, clairement.
Entre une maison d'arrêt et...
Et un établissement pour peine.
Et un établissement pour peine.
Est-ce que je peux me permettre une troisième proposition parce que
vas-y.
Ça me perturbe. Donc c'est maison d'arrêt, établissement pour peine et prison. Qu'est-ce que...
Prison, c'est le terme très générique. Une prison, ah oui, ça donc peut ça, être ça, ça, une c'est... cellule dans un tribunal ou une... Enfin, c'est vraiment le terme très générique.
Comme
maison
monopoly.
D'arrêt et... Comme au Monopoly.
C'est pas un terme légal, prison, en fait.
Non.
D'accord.
Pas du tout. Le terme générique qui inclut la maison d'arrêt et l'établissement pour peine, c'est établissement pénitentiaire. Ça, c'est très générique. Donc, l'établissement pour peine, le mémotechnique, c'est peine, on va dire longue peine. Donc, établissement pour peine, il y en a 73 en France. Et dans ces établissements, comme c'est pour des longues peines, les gens restent longtemps. Donc, on est obligé de respecter la règle de l'encellulement individuel.
L'encellulement, ça se dit ?
Ça se dit.
D'accord. Non, je ne connaissais pas.
Parce que moi non plus. L'emprisonnement, c'est pour les prisons. L'encellulement, c'est pour les cellules.
J'en profite pour vous glisser des petits termes comme ça.
Que j'avais jamais entendu ce terme-là.
Dans ces établissements, c'est nécessaire de suivre une formation pour être vraiment réinséré à l'issue. Donc, alphabétisation, apprentissage de métier et tout un accompagnement individuel très poussé.
À partir du moment où c'est long, on se dit, bon, ce gars-là, il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose, du coup,
exactement.
Autant qu'il sorte en ayant appris.
Alors qu'en maison d'arrêt, sachant qu'il y en a 133 en France, je vous rappelle, parce que ça fait longtemps, établissement pour peine, il y en avait 73, donc un peu la moitié. Dans la maison d'arrêt, c'est tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a donc, les prévenus, qui ne sont pas encore jugés, ceux qui sont pour des courtes peines, c'est-à-dire moins de 2 ans, et aussi ceux qui sont pour des longues peines, mais en attente d'être affectés et transférés dans un établissement pour peine. Donc la maison d'arrêt, c'est vraiment un lieu de passage. Mmh. T'es là 3 mois, donc tu vas pas être alphabétisé en 3 mois.
Mais t'es là uniquement 3 mois, tu peux pas rester plus.
C'est du kiff.
Mais non,
non, non, mais on est bien, mais, vas-y.
J'allais faire
il
une comparaison.
C'était sympa le cours.
J'allais faire une comparaison pourrie, mais comme un. Désolé pour la comparaison, mais comme un putain de CDD en fait. C'est censé durer 3 mois, mais il couille sur la putain de commode. Est-ce qu'il y a pas des mecs qui restent genre en maison d'arrêt 6 mois, 9 mois, 1 an?
Ah non, non, non.
Impossible de rester plus de 3 mois.
Ah non, si jamais t'es condamné à 3 mois, tu restes 3 mois.
D'accord. Non, non, mais
on te fout dehors. Et justement, il y a toute la question pour les. Mais c'est un autre sujet. Toute la question des aménagements de peine à la fin de ta peine. Donc, t'es resté là 3 ans. Et en fait, on n'a pas eu le temps de te préparer à un bracelet électronique ou de te faire une libération conditionnelle. Donc, au bout de 3 ans, tu dégages. Et donc, tu te retrouves à la rue. T'as peut-être pas de foyer, t'as peut-être pas une perspective de métier.
Donc, niveau réinsertion,
donc, gros,
ça surpue.
Zéro.
Et t'as des stats de soit réinsertion, soit
réincarnation.
C'est cellulation.
Cellulation. Mais son retour en milieu carcéral, c'est bon, là c'est mieux.
Mais c'est pas mon sujet. Donc je vais faire un petit teasing pour un prochain épisode de Pardon Maman.
Magnifique.
Excellent.
Magnifique teasing.
Alors, donc je finis sur les maisons d'arrêt. Normalement, c'est censé être plus supportable d'être trop dans la cellule vu qu'on reste pas longtemps. Mais moi, longtemps, tout est relatif, parce que la durée moyenne d'une peine de prison est passée de 8,6 mois à 11,3 mois.
Ok.
En combien de temps ?
Bonne question.
Ok. Nous appellerons ça l'effet Karim.
Je sais pas exactement.
Non, mais c'était juste pour avoir une idée.
Je vais pas dire une connerie,
j'imagine
mais
c'est pas en
10 ans, quoi.
C'est pas en 300 ans, quoi.
Non, non, beaucoup plus récemment. Et donc, avant 2009, on disait qu'une longue peine, c'était plus de 1 an. Donc, normalement, au bout d'1 an, t'étais plus en maison d'arrêt. Aujourd'hui, c'est 2 ans. Donc, rester 2 ans en maison d'arrêt à 8 dans ta cellule alors que t'es censé, il n'y a que 4 places, c'est pas cool. Alors, j'ai mon sauf que numéro 2. C'est-à-dire que là, j'ai relativisé le fait que la surpopulation était seulement en maison d'arrêt. Il y a aussi le fait qu'on va pas mélanger les hommes, les femmes et les mineurs. Des mineurs, vous savez combien il y en a incarcérés ?
Sur les 70 000 ?
Plein, ouais. J'imagine.
Sur 70 000, ça compte les mineurs ?
Ouais.
Il y a 5 000 ?
Non.
Moins. 13 000 ?
Un peu plus de 800.
Ah, sérieux ?
Oh,
1% des détenus. Sachant que...
Pascal Legrand fait des chies, bordel. T'as une émission par semaine, il arrive pas à endiguer ça.
Non, en général, on essaie d'éviter de les mettre en prison quand même, vu qu'ils ont moins de 18 ans. Oui.
C'est à partir de quel âge que tu peux aller en prison ? 15 ans ? 16 ans ?
Ouais, 16 ans. En prison pour adultes, ouais, une vraie prison, 7 ans. Après, à partir de 13 ans, tu peux être...
plastique.
À partir de 13 ans,
Ouais, mais pour fait très très grave, hein, faut que t'aies assassiné tes parents dans 10
minutes. Non, oui, pas si nécessairement. Si t'as pas bouffé ta soupe, pour clairement, t'auras pas en taule, Camille. Enfin,
pour, des violences graves, mais pas besoin de tuer quelqu'un pour aller en prison, hein, loin de là. Un tiers des mineurs sont dans les fameux établissements pour mineurs, mais ils sont sous-occupés. Il y a 342 places pour seulement 286 détenus. Et les deux tiers restants, ils sont dans des prisons normales et dans des quartiers mineurs, mais ces quartiers mineurs sont aussi sous-occupés. Donc encore une fois, ça fausse le chiffre. Il faut réévaluer le taux d'occupation. Et les femmes, alors j'ai pas l'histoire de sous-occupation ou pas, j'ai pas de chiffre, mais je sais qu'elles sont 2400 à être détenues en France. Pour résumer au niveau de la surpopulation, je reprends les chiffres du début. Donc il y a 58 000 places, 70 000 détenus. Sauf que, par exemple, dans une prison imaginaire, on a un quartier homme, un quartier femme, un quartier mineur, au total 150 places, et j'ai 150 détenus. Parfait, non ?
Ouais, c'est bon.
Bah non.
Stylé.
Ah merde.
Parce que si,
alors quoi ?
Si j'avais seulement 100 places dans mon quartier homme, 25 places dans mon quartier femme, et 25 places dans mon quartier mineur, on a bien les 150 places disponibles. Mais j'ai 130 personnes dans mon quartier homme, 15 femmes et 5 mineurs. Donc, je suis à 130% dans le quartier homme.
Ah oui, ok. Ça compense, en fait. C'est comme la moyenne.
Exactement. Donc, ouais, par rapport à la moyenne de 118%, il faut savoir qu'il y a 5 établissements ou quartiers qui sont à plus de 200% d'occupation.
Ah putain.
Donc, ça pose problème.
C'est moult.
Donc, t'as 8 au lieu de 4, quoi.
Ouais, je reprends mon ascenseur.
Ouais,
exactement. Bon, et pour finir, il y a 47 établissements ou quartiers qui sont entre 120 et 150. Voilà. Alors, les solutions, j'en ai compté 3. Il y a d'abord construire des prisons, évidemment. Mais il y a des difficultés, c'est trouver un terrain, ça coûte beaucoup d'argent. Et puis, est-ce que tu rénoves ou est-ce que tu construis ?
En Franche-Comté, il va y avoir ça, non ?
On les met dans des tipis dans la forêt.
Alors, c'est une solution dont on parle beaucoup en ce moment, et puis depuis un certain temps, il y a eu des plans de construction réguliers. Et il y en a un très récent qui date d'octobre 2016, où il y a 21 villes qui ont été choisies pour des hypothèses de construction, avec un budget de 1,1 milliard d'euros. Je ne sais pas s'il y a 21... Je ne pense pas que 21 prisons vont être construites, mais il faut savoir que c'est aussi une solution qui prend énormément de temps. La prison, elle ne va pas pousser comme un champignon. Ça met une bonne dizaine d'années à construire et puis à recruter les surveillants.
Recrutement. Informé et tout, ouais.
Ouais.
C'est un vrai problème, ça, le recrutement personnel, parce qu'on voit beaucoup de pubs de recrutement de personnel carcéral.
C'était ma deuxième solution et effectivement, ça pose problème. On en manque, il y a des ailes de prison, bon, pas énormément, mais ça arrive, qui sont fermées, tout simplement parce qu'on n'a pas le personnel suffisant pour les garder. C'est pour ça qu'on dit oui.
Donc si je peux me permettre, donc ça veut dire qu'il y a des prisons qui sont construites avec des ailes qui sont viables, mais il n'y a pas assez de personnel pour les utiliser.
Oui.
Donc il y a une surpopulation
à cause du manque de personnel.
Ah, c'est horrible.
Ouais. Et effectivement, c'est difficile parce que c'est très lourd psychologiquement. Il y a des moments, c'est un métier très humain, mais en même temps, il faut savoir faire preuve d'autorité, mais sans en abuser. Il y a un climat vraiment tendu dans une prison, c'est un peu parano. T'as des horaires de merde, évidemment. Tu vis juste à côté de la prison, donc le cadre n'est pas forcément super joli. Et puis, c'est vrai que l'image de la prison, ça vend pas forcément du rêve, quoi. Donc, ouais, effectivement, des fois, il y a moins de personnes qui sont en formation pour devenir surveillant
que de places
disponibles.
Parce qu'il y a personne qui va faire ça.
Ouais, et puis parce qu'il y a quand même une sélection, on prend pas n'importe qui.
Ok, je vois.
Et la dernière solution, c'est développer les aménagements de peine, les alternatives à l'emprisonnement ou prononcer des peines plus courtes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a supprimé les peines planchers. Voilà, voilà. Alors, en conclusion, la prison, c'est quand même nécessaire. C'est une punition, c'est la reine des peines, on va dire. Ça permet d'écarter les individus...
C'est qui, le cousin ? C'est le bracelet ?
Quoi ?
Le cousin des peines.
Putain. Oui, c'est le bracelet.
Un petit généalogique de Karim.
Donc ça permet d'écarter les individus nuisibles de façon immédiate pour protéger la société. Mais en pratique, ça devrait être utile. La prison, ça devrait permettre à réinsérer les individus à la sortie.
Ouais.
Et si on n'a pas assez de travail en détention ou de formation ou d'activité, ça ne sert à rien. C'est un hébergement sec. s'appelle comme ça. Et donc le mec, il vient 4 mois, 6 mois, et puis il repart, et puis il revient à ses petites activités.
Et en termes d'entreprise, c'est une perte sèche, en fait, de temps, d'argent, de... c'est juste un mec qui va être pire en sortant.
Oui. Alors, on reviendra sur les chiffres, mais normalement, le choc carcéral fait que, je vous rassure, les chiffres de la récidive ne sont pas aussi hallucinants et flippants que ce qu'on pourrait croire.
Ouais. D'accord.
Ok, bah écoute, sujet super intéressant.
Cool.
Ouais, merci. C'était j'attends. Vraiment très très intéressant.
Merci à vous.
Ah, j'ai ultra hâte de voir la suite, ça va nous faire une belle saga. Et bah du coup, merci pour ce sujet. Moi, j'ai passé à.
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
Enfermé, moustache, je suis en retard, en retard, en retard.
Avec combien de temps de retard?
Alors moi je vais vous parler des lois de gestion du temps et des tâches quotidiennes. Alors pour être tout à fait franc, ce sujet m'a été inspiré par un très bon ami
Karim.
Qui est voilà. qui mais je ne citerai pas de nom, mais qui est peut-être ou n'est peut-être pas autour de cette table.
Karim. On va boire une bière peut-être.
Qui me dit toujours oh j'ai pas de temps sur les galères. Donc je vous cite quelques lois qui peuvent être intéressantes si vous voulez mieux gérer votre temps. Et toujours faire un petit peu de vulgarisation autour de ça. Alors faut savoir
directement moi en fait.
Non,
conseil de l'été, cosmopolitain, vas-y, c'est parti.
Je n'ai pas cité de nom,
mais être mince et belle sur la plage.
Je n'ai pas Karim. Cité de nom, mais c'était une majorité de carré. Peut-être que, bon, la question n'est pas là.
Oui, bon, c'est Karim, vas-y, enchaîne.
Alors, faut savoir, la plupart de ces lois, en fait, ont été un peu tournées de manière humoristique et certaines ont été adoptées par la culture pop. Mais il y a tout de même certaines choses intéressantes à en tirer. On va commencer par la loi de Hofstadter.
Hofstadter.
Comme dans Big Bang Theory, donc.
Exactement. Exactement, en fait, pas tout à fait, parce que la loi de Hofstadter a été initiée par le physicien Douglas Richard Hofstadter, qui est le fils du prix Nobel Robert Hofstadter. Ouais, je le dis avec un accent français maintenant. Mais en fait, c'est son père, donc le prix Nobel Robert Hofstadter, qui a inspiré le nom de Leonard Hofstadter de The Big Bang Theory. Donc, la loi a été. Ce qui a été l'origine de la loi. C'est son ouvrage Gödel, Esker, Bach, Les brins d'une guirlande éternelle, qui est sorti en 1979 et qui a été prix Pulitzer en 1980. Et donc l'énoncé, c'est « Toute tâche prend plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter ». Et il aurait dit donc en fait à l'époque où il commençait à y avoir des intelligences artificielles qui naissaient et qui étaient justement appliquées au monde des échecs. Donc ce cher Douglas Richard Hofstadter aurait dit que dans les premiers temps de la programmation des échecs, les gens avaient l'habitude d'estimer qu'il faudrait 10 ans pour qu'un ordinateur devienne champion du monde, mais les 10 ans ont passé, il semblait que le jour où l'ordinateur deviendrait champion du monde était encore 10 ans plus loin.
Ouais, c'est ça, comme maintenant, on a des ordinateurs qui défoncent les champions du monde de Go, qui est 10 fois plus difficile que les échecs.
Oui, mais ça, justement, c'était une application de la loi de Hofstadter. C'est qu'on se disait, putain, mais dans 10 ans, les ordinateurs seront meilleurs que les humains. Et non, en fait, il fallait encore 10 ans de plus. Mmh. Donc ce qu'on a estimé était encore sous-estimé. Mais qu'est-ce qui fait que le fait qu'on estime la durée pour accomplir une tâche est biaisé, en fait? Qu'est-ce qui fait ça? Et ben ça, c'est dû en partie à une loi que, sincèrement, je pense que tout le monde autour de cette table connaît.
Murphy.
La loi de Murphy.
Oui, ouais, la loi de Murphy. Ah putain. Est-ce que vous savez pourquoi? Maintenant que vous le dites, est-ce que vous savez pourquoi?
Toutes les merdes qui peuvent potentiellement arriver vont arriver.
Donc la loi de Murphy, en fait, ça a été donc son inventeur, c'est Edward Aloysius Murphy Jr. Il était capitaine de l'US Air Force et en 1949, c'est lui qui a énoncé tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Alors ça, c'est ce qu'on dit, en fait, il y a plusieurs façons d'énoncer cette loi. Et en fait, l'origine de cette loi, c'est à la fin des années 40, Murphy travaillait sur un projet aux US, qu'on appelait le projet Edwards. En fait, il avait une série d'expériences à mener, et il s'est rendu compte que, plusieurs fois, son expérience a capoté, et à chaque fois à cause de son assistant, et donc il aurait prononcé la phrase « Si ce mec a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera. » Donc encore une fois, on note
l'allégorie du stagiaire.
Il l'a porté en grande estime.
Voilà, on note une petite violence envers les assistants, encore une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire que toute action va échouer. C'est pas du tout le principe de cette loi. C'est-à-dire que s'il y a une probabilité, pour qu'un événement ait lieu, même lié à une décision extrêmement stupide, il aura lieu. Donc c'est pour ça qu'on retrouve parfois des avertissements parfois un peu bizarres sur certains produits. Donc je vous en ai noté quelques-uns.
Ne mettez pas votre chat au micro-ondes.
C'est exactement ça à coup de pensée.
Retirez le plastique de la pizza avant de la manger.
Non, pire que ça. En exemple, celui qui m'a fait le plus rire, mais qui touche un acteur qu'on connaît le plus. En 2006, Apple sort l'iPod Shuffle,
Ouais.
Je sais pas si vous vous en souvenez.
Le petit truc MP3, ouais, ouais.
Il a indiqué sur son site, sur son propre site apple.com, pour faire la publicité de l'iPod Shuffle, il a indiqué « Ne pas manger l'iPod Shuffle ».
Sérieux ?
Oui.
Ne pas manger ?
Oui, littéralement.
Tu...
Dans le texte, capture d'écran à l'appui. Oui, oui, oui.
Putain, poste là.
J'ai trouvé, je vous ai trouvé deux, trois autres avertissements assez sympathiques. Par exemple, ne pas rentrer dans la machine à laver. Ça paraît évident, mais pour ouais, certains,
y a des cas, hein.
Apparemment, c'était utile. Ne pas utiliser sur les yeux pour un fer à lisser. Des fois que tu veux te lisser les cils. Oui, pour faire un regard de biche. Bien évidemment. Ou oui. Ne pas repasser sur soi pour...
Un fer à repasser.
Mais oui, un fer à repasser.
Mais oui, parce que t'as un... Ça, c'est les États-Unis. C'est parce que les mecs, ils font des conneries et après, mais... ils portent plainte.
Mais ouais, pas que les États-Unis.
Aussi, hein.
Oui, pas que les États-Unis. Parce que pour être tout à fait franc, j'ai des amis qui m'ont parlé du fait qu'ils s'étaient déjà repassés dessus et que ça brûlait. Oh, mais sans déconner. Donc, il y a de nombreuses variantes à cette loi. En France, par exemple, on parle de la loi de l'emmerdement maximum.
Absolument.
Tout à fait.
En français, dans le texte. Ou de l'effet Bonaldi, cocorico.
Ah ouais, la démo, là, qui
coucou,
marche jamais.
Coucou, c'est nous, tout ça. Pas. Alors là, on va passer à la loi de Parkinson. Donc, la loi de Parkinson, ça a été inventée par Cyril Northcote Parkinson, qui était un historien britannique qui a vécu au XXe siècle, comme la plupart des personnes dont j'ai parlé aujourd'hui. Et en fait, son énoncé, c'est « Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement ». C'est-à-dire que voilà, pour expliquer plus simplement, plus on se donne de temps pour effectuer une tâche, plus cette tâche nous prend du temps. Je vais faire un petit interlude. Grâce à aux lois dont on a parlé jusque-là, vous avez pu donc prévoir les cas qui pouvaient vous créer des ennuis. Donc grâce à la loi de
Murphy, Hofstadter.
Oh, oui, oh putain, il y en a un qui suit Murphy en fait. Mais tu suis.
Mais oui, t'as vu.
Vous avez pu également prévoir assez de temps pour les prendre en compte et en rajouter un peu plus dans le doute. Ça, c'est la loi de voilà. Vous avez pu aussi.
Il y a vraiment un qui suit.
Mais sachant que ça prendra forcément plus de temps, même en tenant compte de la loi de Hofstadter, ça va quand même dépasser.
Oui, mais au moins tu as fait un effort. Et vous avez aussi été assez malin pour prévoir une échéance pour la fin de votre projet. Parce que oui, bah, si tu as estimé que ta tâche te prenait 3 mois, mais que tu t'es laissé 2 ans pour la faire, bah, tu vas finir au bout de 2 ans, hein, soyons réalistes. Donc maintenant que tu as suivi.
C'est ça ?
Exactement. Donc maintenant que vous avez suivi toutes ces lois. Je vous donne un dernier conseil pour que le temps passe plus vite. C'est la loi de Fraisse ou le principe de Fraisse. En fait, Paul Fraisse est un psychologue français et créateur de la chronopsychologie. Donc, il a créé ça en 1967. Et donc, l'énoncé de cette loi, c'est « La principale dimension psychologique du temps est liée à l'intérêt porté à l'activité en cours. »
Si tu te fais chier, ça passe moins vite. Si tu t'amuses, ça passe plus vite.
Et ben, c'est exactement ça. Donc, plus une activité nous intéresse, plus le temps passe vite pendant qu'on la pratique. Et inversement. Et c'est pour ça que les enregistrements de Part du Moment passent toujours très vite.
Bravo.
Bon, Karim.
Ouais.
On va passer à ta rubrique.
Ouais, on va faire un
meilleur sujet, celui qui nous sauce le plus, parce qu'on va finir par un petit jeu. On est chaud, chaud, chaud.
D'abord, on va se chauffer en claquant des doigts.
Alors,
c'est le sujet de Karim.
C'est qu'on va parler de samples dans la musique. Avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler, expliquer les différents mots qu'on va utiliser. Donc si je vous dis, dans la musique, sample, à quoi ça vous fait penser ?
Extrait de musique utilisé à un fin de recréation.
Ouais, t'es allé un tout petit peu plus loin que ce que j'avais prévu, mais en gros, sample, ça vient du mot anglais...
sample.
Merci, qui veut dire ?
Extrait.
Échantillon, pour moi. Mais ouais, en gros, c'est un bout de musique. Donc le principe... c'est de prendre un bout d'une musique existante et de composer une nouvelle musique à travers ce bout de musique existant. Donc, on va avoir un sample qui va être le bout de musique. Le fait de composer une musique à partir de ce sample, ça va s'appeler le sampling. Tu vas dire « je l'ai samplé ». Et tu peux aussi avoir le mot « sampler ». C'est l'appareil qui va permettre
de sampler,
de faire du sampling, de sampler. Maintenant, ça va être un ordi, en gros.
Oui.
L'ordi va te permettre de sampler.
Quand on parle de sampler, je pense qu'on pense tous à Daft Punk, en premier.
Voilà, par exemple. Ouais, même le générique.
Avec sampler.
Excellente vanne. Et quand, par exemple, le générique qu'on vient de passer, là, au début de Pardon Maman, avec Senbei et les petits extraits de films et tout par-dessus, au final, on peut se la raconter un peu, on a composé un générique
en faisant du sampling avec des samples.
Sunday a composé un générique.
Encore merci à Senbei.
Non, mais on a utilisé le sample, on a samplé Senbei pour rajouter d'autres trucs par-dessus.
On fait du sample samption parce que lui-même utilise des samples
bien
et
sûr,
on l'a samplé.
Mais j'y viendrai.
Ça va beaucoup trop loin.
Comment ça a commencé le sample ? En gros, dans les années 90, il y a un mouvement musical qui s'appelle le dub qui s'est créé. Alors, ce qui se passait, c'est que c'était des mecs, ils prenaient des intros de reggae avec seulement la partie instrumentale avant que le mec commence à chanter. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des bandes magnétiques et ils les mettaient, littéralement, ils faisaient des copier-coller de bandes magnétiques qu'ils mettaient bout à bout. Comme ça, ils avaient une boucle musicale et par-dessus, ils pouvaient chanter. Il y a un exemple de ce processus-là qui est hyper connu, que vous connaissez tous. C'est pas du tout du dub, c'est Pink Floyd sur Money de Dark Side of the Moon. Vous entendez la petite caisse enregistreuse là ? Elle passe en boucle. Donc il n'y a pas un mec qui a fait la caisse enregistreuse à côté du micro pendant toute la chanson.
Ah bon ?
Ils l'ont tout simplement samplé. Ce qui s'est passé d'autre, c'est que dans les années 70, il y a un autre processus qui s'est créé. C'est qu'il y a des DJ qui se sont amusés à manipuler la façon dont ils passaient leur vinyle et à passer juste les morceaux de musique qui les intéressaient.
Les breaks.
Parce que ça faisait plus danser les gens. Et donc, Elias, tu m'as dit des breaks. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un break ?
Un break, alors si je dis pas de bêtises, en fait, c'est censé être la... Pour le dire très simplement, c'est le moment qui pète dans la partition de la chanson, en fait. C'est le solo de batterie qui ultra pète. Ou
c'est le
solo,
solo de batterie qui ultra pète, et c'est la coupure. Généralement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la musique, le break, et la musique repart de plus belle. C'est un peu l'ancêtre du drop, pour moi.
Et c'est de là que vient le breakdance. On en reparlera aussi.
Je savais pas.
De là que vient le breakdance.
Je vais vous faire écouter la musique qui a été le plus samplée au monde. C'est un artiste, un groupe qui s'appelle The Winstons. Le son s'appelle Amen Brother. C'est classique. On fait la fête et tout. C'est cool. Et il y a un break de batterie à 1 minute 20 à peu près. Je vais vous le mettre. Hop là. Break de batterie.
Ah oui, oui, effectivement, ça me dit quelque chose.
Et là, ça repart. Magnifique. Pour vous dire, ce sample-là, il a été tellement populaire qu'il a créé un genre musical à lui
seul.
La drum and bass.
Ah oui, oui.
Et on en parlera dans un prochain podcast. Attention.
Oh, beaucoup de teasing ce soir.
On fait tellement de teasing, c'est
bisous,
fou.
Elisa.
Petite question. Vous connaissez bien Paris, vous habitez tous à Paris.
Absolument.
Oui, malheureusement.
Vous buvez tous énormément d'alcool.
Oui.
Non.
Malheureusement.
Vous connaissez tous les bars de Paris ?
Non, malheureusement.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Mélotron ?
Oui, mais bien sûr.
Non ?
Si, mais je suis tombé, bien sûr.
Si, tu connais,
c'est où ?
Je viens faire une virgule d'excuse à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne vivent pas aux alentours de Paris.
C'est pas grave, vous tapez YouTube Mélotron et vous allez trouver.
Du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel Mélotron ?
Ben justement, est-ce que tu sais d'où vient le nom Mélotron du bar ?
Je vois le principe et je sais qu'ils ont sorti du son excellent, mais...
En fait, le nom du bar vient du premier sampleur qui a été commercialisé, qui s'appelait le Mélotron. Son nom, ça vient de la contraction entre mélodie et électronique. Mélotron.
Ah putain, c'est beau.
Champion.
En gros, le truc, c'était un gros piano, il y avait plein de bandes magnétiques à l'intérieur, et c'est comme si on avait plein de mini lecteurs de cassettes audio. Et dès que tu appuyais sur une touche de piano, c'est comme si tu avais la touche play et que ça jouait ton son. Grosse révolution. Le problème, c'est que c'était réservé à des gens qui étaient vraiment très très riches. En 1973, quand c'est sorti, ça coûtait 5 200 $. Vous dites, ouais, peut-être 5 200 $, c'est un petit investissement et tout. J'ai fait mes recherches.
Ça douille sa race, quoi.
Euro constant, ça représente en gros 30 000 $ maintenant.
Oh, sa mère!
Autant vous dire que les mecs de Tess dans le hood qui faisaient du hip-hop, ils avaient pas de Mélotron. Et en plus, c'était hyper fragile, donc tu pouvais pas le bouger du studio.
Ouais.
Par contre, les mecs qui étaient vraiment hyper blindés et qui pouvaient se payer les meilleurs studios du monde, ils pouvaient se permettre d'utiliser le Mélotron. Par exemple, l'intro de Strawberry Fields Forever des Beatles, elle était composée avec un Mélotron. C'est les petites flûtes cheloues que vous entendez là comme ça. Donc, il n'y a pas des flûtistes qui sont venus, c'était John Lennon, il était là, il s'est amusé.
C'est beau.
C'est magnifique.
Non mais pour de vrai, non, mais pour vrai.
Je sais pas.
Non mais pour de vrai, c'est beau.
J'ai aucun avis là-dessus. J'aime pas particulièrement les Beatles.
Oh,
Oh, oh là là.
Dangereux, ça.
Donc, Ilias, tu me parlais de breakdance et de hip-hop tout à l'heure. Fin 70, début 80, émergence du mouvement hip-hop. Donc, émergence du rap. Principe du rap, c'est de parler, entre guillemets, chanter sur des instruments. C'est hyper facile d'utiliser un sampler pour se créer cette bande-là parce que t'as pas besoin de louer des musiciens et tout. Tu prends un bout de musique que tu kiffes et bam, tu le fais tourner en boucle et tu peux rapper là-dessus. Le premier, la première musique de hip-hop qui a eu un succès dans la culture populaire, c'est Rapper's Delight de The Sugar Hill Bang. Je vais vous la faire écouter. On a la petite ligne de basse qui arrive.
C'est marrant, je connais ça.
Et derrière, on a la petite guitare qui arrive. Si je la retrouve. Voilà. Les mecs, ils ont samplé... oui, vas-y, dis-moi. Interromps-moi, vas-y.
Non mais en fait c'est juste pour la petite histoire, effectivement on en reparlera encore sur l'histoire du hip-hop, mais c'était considéré comme une honte en fait dans le milieu du hip-hop, parce que c'était les premiers à s'être fait, enfin parmi les premiers à s'être fait enregistrer.
C'était vendu ?
C'est exactement ça, c'était vendu, c'est des mecs qui avaient été recrutés absolument nulle part, et on va pas leur retirer leur mérite parce qu'ils ont quand même fait quelque chose, mais pour la plupart c'était pas les plus créatifs des b-boys. C'était pas les plus créatifs des rappeurs, et il y a même une histoire de vol de rime, si j'ai pas de bêtises, sur la fin de ce couplet, mais j'en reparlerai au moment opportun.
Tu en reparleras parce que j'ai aucune idée de quoi tu parles.
Donc, c'était en quelle année ça?
Je sais plus exactement, je crois que je l'avais noté, mais je l'ai. 79.
D'accord.
1979, The Sugar Hill Gang. Donc les mecs ils ont samplé Chic qui fait Good Times. On entend la petite guitare, la petite basse derrière. Peut-être que comme ça, Chic, ça vous dit pas grand chose, mais c'est les mecs qui ont fait le Freak.
Oh,
le Freak, oui. C'est Chic.
C'est Chic.
Donc en fait, on se rend compte que les samples étaient utilisés, mais par Mons et par vous.
Non, mais attends, mec, c'est même pas fini. Parce que là, je remets Rapper's Delight. On va écouter le début du chant. Je vais le remettre un petit peu avant. Écoutez bien. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Moi je connais plein de beatmakers qui l'ont réutilisé, mais
écoute ça.
Oh oui,
la SketchUp.
La SketchUp,
the ketchup song. Allez,
la chanson du ketchup quoi, merde.
On va se le mettre.
Allez, on chante.
Je suis obligé de couper parce que sinon on va se faire strike par iTunes.
Je tiens à dire que Camille connaît beaucoup mieux la chorégraphie que Juan.
J'ai essayé.
Et donc l'intérêt pour un rappeur, ça peut être d'avoir une instru plutôt cool et de pas avoir affaire à des musiciens. Mais ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux être plutôt nul en tant que personne et te dire... je vais profiter d'une musique qui a fonctionné pour m'attribuer son succès. Comme cette petite pute de Vanilla Ice. C'est plutôt nul. Donc ce mec-là, il l'a piqué, il a rien dit, il l'a sorti comme ça.
Je sens que t'as un petit ressenti envers Vanilla Ice.
Ah mais mec, mais Under Pressure, David Bowie.
Under Pressure.
Franchement, tu peux pas faire ça. Bowie, Mercury. The Girl Next Door, mec.
Oui, mais à l'époque, il était pas mort.
Et c'est pas pour ça que t'avais le droit de faire n'importe quoi avec ça.
Je fais un bisou à David Bowie.
Donc,
et à Freddy.
Il commençait à y avoir des samples à la fin des années 80, début 90. Gros flou juridique et on savait pas trop quoi en faire. Les gens ont eu plein de problèmes légaux. Et il y a même maintenant des gens qui achètent juste des droits sur des musiques et ils spéculent comme à la bourse. Et ils se disent, le jour où ça devient samplé, je pars en justice et je demande des millions. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur le fait de sampler. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ?
Moi, j'aime bien parce qu'on a eu certains de mes albums préférés aujourd'hui sont basés sur du sampling.
Genre quoi ?
Je saurais pas te dire, mais des groupes comme C2C, Zatrikaz, etc.
Putain, c'est génial,
ça. Sur du sampling, et je trouve que ce qu'ils font avec, Ils recréent, c'est comme, tu vois, engueuler des sculpteurs parce qu'ils n'ont pas inventé l'argile, mais ils utilisent l'argile pour faire des sculptures.
Ah, voilà. Je suis d'accord.
Il y a vraiment une création artistique, un processus. Tu prends, par exemple, on connaît tous Smack My Bitch Up. T'arrives ici, là. La voix de la meuf qui chante, jamais j'aurais écouté ça. C'est trop cool. Alors la drogue, c'est pas bien, le faites pas. C'est rigolo, mais c'est interdit.
Donc Smack My Bitch Up de...
The Prodigy.
Voilà.
Ah pardon, je l'avais pas dit. Bon, après, il y a aussi des gens qui font ça de manière très claire et qui se mettent d'accord dès le début. Par exemple, si je vous fais écouter Dream On de Aerosmith. C'est comme Sing For The Moment d'Eminem.
Eh oui, oui.
Et l'histoire qui est marrante, c'est que donc, le Eminem a totalement assumé, parce que dans le refrain, c'est le refrain de Dream On. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a le guitariste d'Aerosmith qui est venu et il a enregistré un nouveau solo de guitare spécialement pour Eminem sur sa chanson. Je fais très bien la guitare à la voix.
Et en surpète, quoi.
En reparlant d'Eminem, il a samplé Dido sur Stan, Mighty Bone Cold, I'm Wondering Why.
Absolument.
Et c'est tellement assumé qu'elle est dans les artistes de la chanson et elle est même dans le clip. On va vous la faire écouter, Nostalgie.
Avec les petites pluies.
Beaucoup de tendresse pour...
Comme je suis quelqu'un.
Stop.
J'ai qu'une parole. Et j'avais dit sur Facebook à Mina que j'allais rendre hommage à David Gilmour parce qu'elle nous a posté des photos de Fender Stratocaster.
Comme quoi, on écoute nos auditeurs.
Et tu es un homme de parole.
Mina, on pense à toi.
Mina, on te kiffe, ma mène. Sauf que David Gilmour, c'est un mec un peu chelou.
Mais...
Ouais, ouais. Parce qu'il a samplé un truc bizarre.
Il a samplé ça?
Eh oui.
T'étais pas au courant?
Il a samplé le générique de... Enfin, le générique, le l'annonce de la SNCF. Et il a surkiffé. Hein.
Mais dans quel but?
Parce qu'il aime, il aime ça, il est venu en vacances en France, il dit putain, c'est génial. Vas-y, je fais une musique là-dessus.
Non mais mec.
C'est tout le long, hein. Let's go do it. Déjà que j'aimais pas Pink Floyd, mais là c'est bien la preuve que c'est complètement de la merde.
T'aimes pas Pink Floyd, t'aimes pas les Beatles?
Mais c'est nul!
T'aimes quoi dans la vie?
J'aime bien les Paul Kalkbrenner.
Ah. Qui a repris le jingle de la S-Bahn à Berlin.
S-Bahn à Berlin. Je vais vous passer des musiques qui ont été samplées, et le but, c'est de trouver la musique qui a samplé cet artiste.
Finalement.
Par exemple, on va commencer par Straight to Hell de The Clash. À quoi ça vous fait penser?
Ah, c'est à MIA.
MIA, Pepper Plains.
Oh, joli. Putain, joli, bien joué.
On m'appelle Jean-Michel Sample dans la street.
Jean-Michel Juano Samplo.
Ok, allez.
Ça surdéfonce.
Charles Aznavour.
Non, non, là non.
Parce que tu crois.
Non! Oui, 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 oui.
J'ai l'impression que c'est de la torture pour Ilias.
Mais oui, c'est vrai.
Parce que tu crois que l'une ma faiblesse.
On va te la faire. Tum, 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 tum,
tum, tum, tum. Dr. Dre! What's the difference? Qui a été aussi repris par Coxie.
Attends, mais ils ont vraiment. Non, c'est pas. Ah, est-ce que c'est avéré?
Ouais, ouais, ouais. Mais écoute.
Oui, non, mais la ressemblance, ok, mais y a pas une occurrence plus ancienne?
Non, non.
Je vais vous mettre un petit peu de trompette.
On adore la trompette. Surtout Camille.
Oui, oui, ah putain, c'est insupportable ton blind test.
Et je vous la remets.
I give it.
Oui. Jump around.
Ça est facile. Jump around. Back it up, back it in. Let me
allez,
begin.
Inconnu.
Coolio.
Coolio.
Non, sérieux?
Stevie Wonder.
Gangsta's Paradise.
Mais oui, bien sûr. Ah putain, bien joué, joli.
Qui vient de Stevie Wonder?
Oui.
Ah, on a tout.
As I walk to the street in the valley of death. Bon, celui-là, je vous le dis tout de suite, comme ça, il est introuvable. C'est les Rolling Stones, The Last Time. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec, il a refait des reprises orchestrales de musique des Rolling Stones. Donc il a fait une reprise de cette musique-là, que je vais vous passer, qui s'appelle The Last Time. Il faut faire attention au petit violon du fond. Petite cloche à la Futurama.
Oui, c'est exactement la même harmonie.
Attention.
Oui, Moby.
Non.
C'est pas Moby?
Non.
C'est The Verve.
C'est The Verve. Bittersweet Symphony. Tu sais cette musique nulle que tout le monde aime bien?
Mais ça me faisait penser à du Moby, non?
Ça pourrait, mais c'est Bittersweet Symphony de The Verve.
Voilà. Mais je pensais à ça, mais j'ai mis Moby.
Mais attends.
Alors, il y a un truc marrant. Vas-y, dis-moi.
Non, mais c'était la question. Et je pense que tu vas raconter l'histoire de...
Okay. Bien sûr, parce qu'il y a un truc drôle qui s'est passé. C'est que les mecs de The Verve, bien qu'ils soient nuls, ils ont quand même été demandés aux Rolling Stones s'ils avaient le droit de réutiliser le sample de leur reprise. Parce que vu que c'était une reprise, c'est les Stones qui ont les droits. Les Stones ont dit, ouais, vas-y, fais-le. Ils ont fait leur musique, ils l'ont sorti. Les Stones ont dit, non, ça ressemble trop. Et du coup, les Stones sont crédités dans la composition de Bittersweet Symphony, et The Verve a touché exactement 0 euros pour cette chanson. Bravo Mick Jagger, tu n'es pas du tout radin. La prochaine, elle est très compliquée. Il faut se concentrer sur la voix qui arrive.
Oh putain.
Disco.
Sans transition.
Ça arrive à peu près là. C'est fini.
Ah, Daft Punk.
Tu l'as?
Daft Punk.
Putain,
évidemment.
Bien joué, mec.
Bon, en même temps, des mecs
Super
qui ont
Heroes.
Pompé du... Des mecs qui ont pompé du... Non, c'est dans quoi, ça?
Super Heroes.
C'est dans putain. Who's Been Sleeping in My Bed.
Mais c'est récent.
Barry Manilow.
Ah non, c'est pas récent. Non.
Alors, Ilias et Juan, je compte vraiment sur vous.
Ok.
On est chaud.
Si vous trouvez pas, je suis vraiment deg. Vous devez de trouver.
To me, Chinese man.
Non.
Si.
Ah, peut-être. Et c'est la trompette qui compte.
Ah, Zwinkels.
Des Zwinkels.
Super sympa. Ambiance ultra amicale. Association Jean Normal. Alors,
allez.
C'est pas les Zwinkels.
C'est les Zwinkels avec TTC.
C'est les Zwinkels avec TTC.
Une facile.
Comment c'était déjà?
Ah putain, c'est horrible.
Smoke weed every day.
Non, mais c'est Snoop Dogg.
Ça, c'est pas ça.
C'est The Next Episode. Ah, mais si, c'est pas le nom de.
Bah non, j'ai pas le nom de la musique.
Ouais, c'est ça.
Je vous avoue, c'est aussi un des samples les plus utilisés.
C'est bas.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu peux faire des samples ultra qualitatifs. Ouais, je dis, c'est le sample. Tu peux faire des samples ultra qualitatifs sur en fait très peu de choses. C'est assez fou.
C'est vrai.
C'est assez impressionnant.
Du coup, bravo, messieurs.
Ah, bravo à toi, c'était absolument incroyable.
Et ben merci pour ce super quiz.
Tu nous as fait voyager dans l'univers des samples.
C'était super cool et putain, ça nous a ramené des choses magnifiques dans le hip hop et même côté Aznavour. On s'y attendait pas spécialement.
Bah, ce que tu crois.
Ouais.
Mais c'était super intéressant. Mais du coup, malheureusement, cet épisode de Pardon Maman touche.
Ah non, déjà.
Je suis sincèrement désolé, mais il touche à sa fin.
J'en avais encore 17.
Et on va avoir plein de choses de prévues pour les prochains.
Il en avait vraiment encore 17.
Sans blague aucune. Mais vous avez remarqué qu'on a fait beaucoup de teasing, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sujets en attente pour vous. On a beaucoup de choses sympathiques, des invités à venir pour les épisodes.
Oui, des invités à venir.
Et puis Mina, envoie-nous tes trucs là. À chaque fois, ça me fait un nouveau sujet, c'est hyper cool.
Mais lâche-la.
Mina qui va peut-être nous rejoindre en août. On va voir, on va essayer de trouver un. On va essayer de trouver un terrain d'entente. Dans tous les cas, bah, on vous remercie en fait pour toutes vos, tous vos remerciements, tous vos commentaires.
On vous remercie pour tous vos remerciements.
Merci, vous êtes formidables.
Donc on vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos partages, ça nous fait extrêmement plaisir. Une petite info que j'aurais dû dire en intro, mais que je vais dire maintenant. En fait, on a dépassé les 1000 écoutes pour Pardon Maman. Bip bip.
Ah putain.
C'est vraiment un bonheur. On a eu plusieurs commentaires vachement sympathiques sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes. C'est vraiment un bonheur.
La joie est palpable.
Amenez-nous des bières si vous aimez. Des 5 étoiles.
Des bières ou ce que vous voulez. Je vous rappelle qu'on a un Twitter qui est @pardonmamanpod, un Facebook @pardonmamanpodcast. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter et sur iTunes. N'hésitez pas à lâcher 5 étoiles. Non seulement ça nous fait un plaisir fou, mais en plus ça nous permet de partager ce podcast au plus grand nombre.
Bisous.
Allez, salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.